Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes lives Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute.
Oh my god, Internet, ça va ou quoi?
C'est quoi le problème? Je suis un peu zinzou? Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte.
J'espère que vous êtes ready pour la dingue.
Pas la peine d'être désagréable.
Et y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner.
Ok. On va parler d'actu, siroter un excellent café frappé et aller lire Reddit avec un petit focus sur relation homme-femme aujourd'hui, puisque j'ai fait un truc rigolo la semaine dernière dont je vais vous parler. Et je me suis dit que ça serait une bonne transition vers voilà un lundi un petit peu le gender finalement. Donc on va aller lire Ask Meuf et Ask Mec sur Reddit pour voir qu'est-ce qu'on se demande. On va aller voir ça ensemble. L'enquête. Mise à jour de la règle concernant la participation masculine. Ah. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Ask Meuf, qui est donc un subreddit qui vise à poser des questions aux femmes, comme son nom l'indique. Salut tout le monde, nous dit la modération. En raison de l'accroissement de la fréquentation et de la participation sur Ask Meuf, nous nous sommes récemment trouvés un peu démunis face au constat que la plupart des questions posées ici trouvaient avant tout des réponses masculines. Vous voulez dire que quand on laisse tout le monde parler, les hommes parlent plus que les femmes? Non, je n'y crois pas. Si nous ne souhaitons pas interdire aux hommes de participer et de donner leur avis sur une situation dans laquelle ils se reconnaissent ou s'identifient, nous voulons avant tout valoriser la parole des femmes sur un espace qui leur est dédié. Or, nous avons récemment constaté à de nombreuses reprises que leurs commentaires étaient souvent noyés, invisibilisés, voire contredits et downvotés, donc votés vers le bas, ce qui les invisibilise, ce qui nous a bien évidemment beaucoup contrariés. Zut. Ainsi, désormais, nous limiterons la participation masculine uniquement aux commentaires de second niveau, c'est-à-dire uniquement en réponse à un autre commentaire. Ce poste est une exception. Messieurs, si vous avez des questions ou des remarques, nous sommes également à votre écoute. Nous espérons que cette nouvelle proposition permettra des échanges plus équilibrés, toujours dans un esprit de dialogue et d'entraide. Il ne s'agit pas d'une sanction, mais davantage d'un rééquilibrage de la participation. Théma commence à prendre mille pincettes pour pas les vexer. Merci à tous et toutes d'être toujours plus nombreux et nombreux à nous rejoindre. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette communauté, la meufdération, la modération de Ask Meuf. Ok, donc le problème qui se pose, c'est que dans un subreddit qui vise à poser des questions aux femmes, eh bien, la plupart des, enfin beaucoup de questions posées trouvaient des réponses majoritairement masculines. Et donc, ce que Ask Meuf a fait, puisque sur Ask Meuf on indique si on est un homme ou une femme, on choisit, c'est une petite étiquette qui va à côté de notre pseudo. Eh bien, les gens qui se seront identifiés comme des hommes ne pourront pas poster un commentaire natif à une publication, mais pourront seulement répondre aux commentaires déjà posés, dans le but de revaloriser les commentaires posés par des femmes, puisque c'est un peu le concept du subreddit. Voilà, je vois sur le chat que vous n'êtes pas extrêmement étonné, je ne le suis pas non plus. Écoutez, on commencera en allant lire les commentaires, les réactions à cette annonce. Mais avant, j'ai 2-3 trucs à vous raconter. Je vais bientôt, genre septembre, lancer une newsletter incroyable pour parler émotion. Une newsletter que j'aimerais appeler All the Feels et qui serait probablement toutes les 2 semaines, je dirais. Et qui seraient des réflexions sur qu'est-ce qui m'émeut en ce moment et mon rapport aux émotions. Le rapport du monde aux émotions sera aussi l'occasion de parler de comment le monde réagit émotionnellement à ce qui se passe, donc aussi d'actualité, de société et de choses qui m'ont touchée. Voilà. Ça débarque en septembre, ce sera gratuit. Il y aura juste à mettre votre mail et je vais pas vendre vos mails à des compagnies de télémarketing. J'ai juste envie d'un endroit où je peux vous parler à l'écrit parce que Twitch, c'est pas de l'écrit, je sais pas si vous avez remarqué. Et je peux le faire sur Patreon, mais le format newsletter, je me dis qu'il marche bien. Je ne sais pas encore sur quel système je vais la mettre, sur quelle plateforme. Peut-être Substack, qui est quand même the go-to move pour tout ce qui est newsletter. Voilà, donc petite annonce de Mimi. Streamez ça fort l'équipe, ça sort très très vite. Activez la cloche, tout ça, suivez-moi sur les réseaux pour ne rien rater de mes actus, y compris l'inscription à la newsletter All the Feels, qui devrait pas tarder, puisque voilà, on vise septembre, dit-elle, en n'ayant absolument pas commencé. Mais des fois, je promets des choses pour me motiver à les faire. Astuce, parce que sinon, je culpabilise trop et je me dis que vous ne m'aimerez plus. Les relations parasociales, ça marche dans les deux sens, que voulez-vous. Mais ça me rend plus productive. Dernier truc, pourquoi j'ai décidé... Dernier truc avant qu'on passe à Reddit. Pourquoi j'ai décidé de faire un petit live Reddit spécial les hommes et les femmes? C'est parce que j'ai participé à un podcast trop marrant. Voilà, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast en accès libre. Ça s'appelle La Chamade. C'est créé par une super meuf qui s'appelle Samia. Et le concept, c'est de parler d'amour. Et la série de l'été, c'est inviter des meufs féministes à réagir à des livres cursed sur les rapports hommes-femmes. Et donc, j'ai eu l'honneur d'être invitée à réagir au livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », qui est un peu la bible de la psychologie éclatée du couple hétéro dans les années 90. C'est un best-seller de fou que moi, j'ai jamais lu. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que Samia ne m'a pas obligée à le lire, puisque c'est elle qui m'en a sélectionné des passages et qui me les a lus. Et du coup, à la fin, ça fait un podcast. Ok, donc c'est La Chamade, un podcast de Samia Miskina, auquel je suis ravie d'avoir participé, on a bien ri. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Il y a un autre épisode avec Camille Laurent, voilà, si vous n'en pouvez plus de regretter la team originelle de Laisse-moi kiffer, vous pouvez nous écouter toutes les deux, mais séparément dans La Chamade. Et c'est un plaisir, et retrouver Camille dans 4 quarts d'heure, bien sûr, toutes les semaines, avec Kalindi, Alix et Louise, la Dream Team finalement. Et donc, comme j'ai fait ce contenu extrêmement, qui m'a rappelé qu'il y a encore des gens extrêmement genrés et des opinions extrêmement genrées dans ce monde. Je le sais bien sûr, mais j'essaye de l'ignorer parfois pour ma santé mentale. Je me suis dit qu'on allait faire un petit matin sur Reddit où on va commencer par Ask Meuf et Ask Mec, et ensuite, si on a envie, on décalera sur Reddit France. Okay, donc on va déjà aller voir comment Reddit a réagi à l'annonce de Ask Meuf de limiter la participation des utilisateurs masculins à des réponses à des commentaires et non pas à des commentaires tout court. Donc, top commentaire sur AskMeuf. Ça paraît légitime comme règle. Si quelqu'un pose une question sur AskMeuf, il attend des opinions de femmes. Donc, imposer aux hommes de ne pouvoir que répondre à des commentaires semble logique. Et c'est la même logique que les subreddits de conseils médicaux où l'ego rappelle quelqu'un. Effectivement, il y a des subreddits, par exemple, autour de la santé, où les gens qui répondent sont des professionnels de santé qui l'ont prouvé aux modérateurs et modératrices, et où du coup leurs commentaires sont mis en avant. Et les commentaires de gens qui ne sont pas des pros peuvent être supprimés parce que le but, c'est d'avoir des réponses de professionnels de santé. Car c'est important de demander à des pros. Alors, on a un top commentaire, puisque c'est permis sur ce fil seulement, qui dit « Homme ici, c'est une bonne chose, mais je doute que cette règle soit respectée, wait and see ». Et en fait, c'est la modération qui va aussi devoir trier les commentaires si jamais il y a des hommes qui passent entre les mailles du filet, par exemple en ne mettant pas la petite étiquette là, par exemple, qui dit « mec cis » pour préciser qu'ils sont un homme et que du coup, ils sont censés ne pas faire un top commentaire. Écoutez, on a des hommes qui disent merci pour cette nouvelle règle, j'aime beaucoup avoir et comparer la vie des femmes au mien et à celui des autres hommes, et je suis complètement déçue à chaque fois que je constate le manspreading sur ce sub. Donc le manspreading, c'est d'écarter les jambes pour prendre toute la place quand on a d'énormes testicules, et quelqu'un lui dit non, tu penses au mansplaining, mais en effet c'était peut-être juste un jeu de mots sur les hommes s'étalent littéralement sur un subreddit qui ne leur est pas dédié. Mais écoutez, on a des réponses positives de la communauté, à la fois des femmes et des hommes, sur Ask Meuf, à ce changement. On est ravis, voilà. On peut encore croire à un monde où on est différents mais complémentaires. Non, c'est faux. On peut juste bosser ensemble comme des personnes. Ok, on va voir ce qui se raconte un peu sur Ask Meuf. Avez-vous des exemples de produits marketés pour meufs tellement absurdes que vous vous en souvenez? Allez, on va parler un peu capitalisme et Pink Tax, taxe rose et marketing genré. Donc la Pink Tax, c'est une théorie selon laquelle produits marketés spécifiquement pour les femmes coûtent plus cher que leurs équivalents non genrés ou masculins. Ça s'est vérifié à l'échelle, par exemple, de quelques supermarchés à New York où il y avait une étude de comparaison de produits qui avait été faite. Et ça peut se vérifier encore ponctuellement si vous regardez des rasoirs roses par rapport aux mêmes rasoirs bleus. Souvent, les roses vont être plus chères. Et les industriels s'en défendent en disant, en fait, il n'est pas plus cher parce qu'il est rose, il est plus cher parce qu'il est différent. Genre le bleu, il a une bande de musc et le rose, il a une bande d'aloe vera. Donc c'est pas le même produit, donc le prix n'a rien à voir avec à quel point c'est genré. Bon, ça doit dépendre des cas, mais il y a quand même, en tout cas, le marketing genré rend les choses plus chères, et plusieurs pistes ont été amenées pour essayer de comprendre la taxe rose, y compris une idée selon laquelle peut-être les femmes sont éduquées à acheter plus de qualité, du coup elles vont acheter des produits qui coûtent plus cher à l'achat, alors qu'on connaît tous et toutes ce mec qui se lave avec un gel douche visage cheveux raie des fesses et entre les orteils et qui ne voit pas le problème et qui a quand même pas de bouton parce que la vie est injuste. Donc voilà, il y a plusieurs réflexions à ce sujet. Mais le marketing genré, en tout cas, non seulement ça coûte cher, mais en plus c'est souvent absurde. A-t-on besoin un exemple quand même assez marrant, c'était le dentifrice Signal for Men, qui existe toujours, hein, je crois. Comme si les hommes avaient besoin d'un dentifrice dédié. On a de la lessive pour hommes, des outils de bricolage pour elles. Enfin bref, il y a des cas où ça peut être intéressant, par exemple, si on parle d'outils de bricolage, d'en faire de plus petits formats pour les gens qui ont des plus petites mains. Mais à ce moment-là, peut-être market-les pour les gens qui ont des plus petites mains et pas pour les gonzesses. Et c'est rose, parce que je connais personnellement quelques hommes qui n'ont pas des grandes paluches. Moi, j'ai des mains minuscules en mode passe-partout du Fort Boyard et qui seraient contents d'avoir un marteau à leur taille, mais qui ne vont peut-être pas l'acheter parce qu'il est rose et vendu dans une boîte à paillettes avec marqué pour madame. Bref, le marketing genré le plus absurde. C'est un mec qui dit « J'ai récemment remarqué en faisant les courses des gels douches en forme de bidon d'essence. Ça m'a bien fait sourire et m'a fait me demander quel genre de truc absurde on pourrait avoir de votre côté. » Alors déjà, bon, il peut les trouver au supermarché aussi, hein, les trucs pour femmes, parce que les supermarchés ne sont pas encore dans une ségrégation genrée. Et donc, quelqu'un parle... Je ne sais pas pourquoi ça pixelise un peu comme ça. Quelqu'un parle de ce genre de produit, Suddenly... lotion pour corps qui s'appelle littéralement femelle quand c'est pour elle et homme quand c'est pour lui. Alors voilà, pro tip, si vous voulez interagir avec des femmes, ne les appelez pas des femelles. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un produit très mainstream. Après, ouais, on dirait un peu une lotion qui te rend meuf, quoi. Pratique pour pas mal de personnes trans, ce serait plus simple. Il y a quelques années, ils avaient lancé une gamme de stabilos pour femmes avec toucher velours et déclinaisons de couleurs violette et rose qui coûtaient deux fois plus cher que les normaux. Incroyable, incroyable. Est-ce que vous avez des exemples, des souvenirs, vous, de marketing genré qui vous est resté en tête tellement c'était débile ? On a un article de 20 minutes sur ces fameux stabilos. On va voir quand même, hein, est-ce que ça vaut vraiment ce prix prohibitif ? Un stabilo pour femmes qui fait tâche, bad buzz. Un surligneur aux courbes adoucies pour accompagner les femmes dans leur conquête. Mais on est où là ? Mais on est où ? Jusqu'à présent, le stabilo était un surligneur d'hommes dans un monde d'hommes. Je connais zéro homme qui possède des stabilos. Je connais 100% de femmes qui possèdent des stabilos parce que c'est les meufs qui se font chier à faire des plannings avec des couleurs et tout là. Évolution des mœurs et parité oblige, les femmes accèdent au pouvoir. Plutôt que de copier les hommes, elles affirment leurs différences et cultivent un style personnel. Tu sens la branlette en salle de réunion marketing, là. Stabilo leur dédie un surligneur exclusif, néon, qui s'affranchit des codes masculins et revendique un style délibérément féminin. C'est une agence de presse qui est surpayée. Ces gens sont trop payés. Une silhouette est lancée, des courbes adoucies, touchées velours, un boss au féminin. Je n'en peux plus. Ah oui, bah on n'a plus les images, pourquoi ? Parce que ce sont des vieux tweets, et maintenant Elon Musk possède Twitter. Donc les images sont cassées quand elles ont été postées avant 2014. Voilà, on est ravis. C'est dommage, hein ? Peut-être que le fait de remplir tous les articles de tweets était une erreur. Peut-être. Peut-être. On y pensera une autre fois. Ouais, le stabilo pour elle, je pense qu'on est pas mal dans un certain niveau de conneries. Et la justification est quand même délicieuse. Crary, c'est pour accompagner les femmes dans leur conquête du monde qu'on leur vend un stabilo rose plus cher, wesh. Il y a le vendeur de Intersport qui m'a forcé la main 15 minutes à prendre des gants de crossfit rose plutôt que des noirs qui étaient exactement les mêmes. Oui, ça c'est vraiment con. Après, elle dit pas que les roses étaient plus chères. On n'est pas forcément dans la pink tax. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer qu'une femme ne souhaite pas un objet genré, quoi. Ou qu'un homme soit OK avec du rose. Alors là, c'est encore plus louche, quoi. Ah oui, le mec qui avait inventé un stick pour coller les petites lèvres de la vulve pour retenir les règles. Ouais, là, on est à un exemple de mansplaining assez élevé. Je me souviens, j'en avais fait un article sur Mademoiselle. Après, voilà, on est aussi sur une personne zinzou, quoi, je pense. Enfin, c'est pas comme si son truc avait été commercialisé à grande échelle. Mais par contre, on a appris ça récemment, là, que jusqu'à là, les études scientifiques sur la capacité d'absorption des tampons n'étaient pas réalisées avec du sang, mais étaient réalisées avec de l'eau. Vous savez ce qui n'a pas la même texture que l'eau ? Le sang. Vous savez ce qui ne contient pas que du sang ? Les pertes menstruelles. Du coup, ça fait voilà, depuis l'histoire de l'humanité, qui testent les protections menstruelles avec pas le bon liquide. Et du coup, par exemple, quand ils disent « absorbe jusqu'à 12 heures », c'est non, mon gars, ça absorbe jusqu'à 12 heures d'eau, c'est pas pareil. On va lire cet article de BFM TV. Qui est paru il y a quelques jours, il y a 3 jours, le 18 août 2023. Donc, BFM TV. Une étude scientifique teste pour la première fois des protections hygiéniques avec du sang et non de l'eau. La capacité d'absorption des tampons, serviettes et autres coupes menstruelles est généralement testée à l'aide d'eau ou de sérum physiologique, preuve du déficit de connaissances autour de la santé des femmes. Le sang menstruel n'est pas seulement tabou dans les publicités où il est souvent représenté par un liquide bleu. Jusqu'ici, les études scientifiques portaient sur les protections hygiéniques utilisées de l'eau, du sérum physiologique ou des solutions salines pour tester les produits. C'est ce qu'affirme une étude menée par l'Oregon Health and Science University aux États-Unis et publiée dans la revue scientifique BMJ Sexual and Reproductive Health, qui affirme être la première à utiliser du sang humain lors de ses tests de produits, rapporte The Guardian. Cette étude met par conséquent en lumière un décalage entre la capacité d'absorption déclarée et la capacité d'absorption réelle de nombreux produits, la plupart déclarant avoir une capacité supérieure à celle constatée par les chercheurs. Et cela pourrait être dû à la manière dont les tests ont été réalisés. Le sérum physiologique ou l'eau n'a pas la même viscosité que les composés sanguins, explique Bethany Samuelson-Banow, docteur en pharmacie et auteur principal de l'étude. En effet, le sang menstruel est plus visqueux et contient des cellules sanguines, des sécrétions et des tissus provenant de l'endomètre, autant d'éléments qui influencent son absorption. Pour la présente étude, l'équipe de scientifiques n'a pas directement utilisé de sang menstruel, mais un concentré de globules rouges, c'est-à-dire ce qui reste du sang une fois que le plasma et les plaquettes ont été enlevés. C'est au moins une approximation plus proche de la viscosité du sang menstruel que le sérum physiologique, affirme Bethany Samuelson-Banow, reconnaissant toutefois des limites. De plus, aucune réglementation industrielle n'exige de tester la capacité de ces produits, sauf dans le cas des tampons en raison du lien avec le syndrome de choc toxique. Toutefois, selon cette étude, ne pas avoir toutes les informations sur l'efficacité réelle des protections hygiéniques empêche de mesurer objectivement les menstruations et ainsi de détecter des règles anormalement abondantes qui peuvent constituer de véritables problèmes de santé. Les diagnostics de saignement menstruel abondant peuvent passer inaperçus parce que les médecins ne savent pas quelle quantité de sang est contenue dans les différents produits menstruels, détaille Bethany Samuelson-Banow. Bah oui, si tu vas voir ton docteur et que tu lui dis j'ai des règles très abondantes et qu'il te dit vous utilisez combien de serviettes et tu lui dis 8 et lui il pense qu'une serviette ça tient 12 heures alors qu'en fait non, elle te tient 4 heures parce qu'elle n'a pas été correctement testée, bah ton docteur il sait pas vraiment combien de sang tu perds. Ces tabous, reprend l'article, ont un impact important sur la recherche scientifique, créant un déficit de connaissances autour de la santé des femmes. Comme le note El País, l'université de Stanford aux États-Unis a récemment quantifié cette sous-représentation du sujet dans la littérature scientifique. Depuis 1941, seules 400 études concernant le sang menstruel ont été publiées contre environ 10 000 pour la dysfonction érectile. On est ravis. Voilà, et bien écoutez, qui eût cru que je prononcerais un jour cette phrase en 2023, il était temps de tester les protections menstruelles avec des pertes menstruelles. Voilà. Parfois, il y a des choses tellement évidentes, tu te dis, ça va, tranquille. C'est genre, même pas t'y penses parce que ça te paraît obvious. Mais non, comme quand t'apprends que les symptômes de crise cardiaque sont différents pour les femmes et pour les hommes. Alors, Justin, que dis-tu ? J'ai lu un thread d'une meuf qui bosse en labo et qui disait que c'était complexe de faire des tests avec du sang, alors parce que contamination, etc., alors que l'eau, tu peux avoir la même viscosité. Mais je reste un peu dubitatif. Et elle disait aussi que du coup, rester sur la même méthode, à savoir de l'eau, ça permettrait de faire des comparatifs avec les tests d'avant. Et Mr. Pink nous dit « Bonjour, qui a fait ce protocole ? Il faut lui retirer son doctorat. » Tetsempu nous dit « Quel scandale !» Et oui, toujours une bonne période pour être une personne menstruée dotée d'un utérus et se rappeler que historiquement, le monde s'en bat plutôt la race de ma vie et de ma santé. Voilà, on s'est mis en jambe avec un petit sujet Ask Meuf autour de quels sont les exemples les plus random de marketing genré que vous avez vus. On va faire un peu Ask Meuf et un peu Ask Mec. Donc là, on va enchaîner avec Ask Mec pour voir un peu de quoi ça parle. Et donc, je suis contente parce que pour une fois, sur Ask Meuf, on n'a pas eu une question qui parle des relations hommes-femmes, mais une question qui demande directement aux femmes un truc qui les concerne finalement. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Ask Mec ? Ah, on a une question jeu vidéo. À quel jeu vidéo étiez-vous vraiment chaud ? J'en place une pour Nodus que j'ai en visuel, qui est vraiment chaud à de très nombreux jeux vidéo. C'est quoi le jeu vidéo où t'es le plus chaud ? C'est Call of ?
Non, c'est CS.
C'est CS, pardon. CS, c'est son go-tier jeu vidéo. Moi, c'est Stardew Valley, je pense. Parce que je suis... Mais non, mais je joue pas à des jeux... Après, j'ai joué à Hades, j'ai joué à Cult of the Lamb, genre des petits roguelites, tu as compris, un peu de bagarre. Tears of the Kingdom, ça va. Je fais la bagarre et tout, mais je dirais pas que je suis bonne, quoi. Je galère, mais ça fait partie de l'aventure. Ah, on a Gabdag qui dit CSGO la vie dans le chat. Mimi sur Team Fortress, mon rêve. Mais non, mais moi je joue pas à ces jeux-là. Vous arrêtez pas de courir partout. Faut suivre, faut lancer des trucs. Après, vous êtes là. Non, on a perdu la tourelle. Et moi, je suis là.
déjà, dans Baldur's Gate, c'est du tour par tour, et des fois, je suis un peu overwhelmed par ce qui se passe, donc je peux pas faire ça. Un jour, dans ma vie, j'ai essayé de jouer à Overwatch, c'était une expérience de mort imminente. Je n'ai pas compris, je n'ai compris aucune parcelle d'action sur l'écran. J'étais vraiment en mode... Et après, c'était fini, et je fais... Quoi ? Bah ouais, Zoc, je suis pro-player de Stardew Valley, il y a quoi ? Peut-être je peux le speedrun, hein. En vrai, CSGO est une horreur, et après 16325 heures passées dessus, j'ai définitivement arrêté depuis un an. Bravo pour ton badge, j'ai un peu l'impression d'être aux Alcooliques Anonymes, c'est bravo pour ton badge de un an d'arrêt, bravo. Moi, j'ai pas arrêté Stardew Valley. Mais en ce moment, c'est balle dure. Ok. On a une question, donc, Ask Mec, à quel jeu vidéo étiez-vous vraiment chaud ? Avec 200 réponses, tout le monde est content de montrer un peu son rank. La personne qui a posé la question dit « Dans mon cas, c'était Call of Duty 4 Modern Warfare, le début de l'e-sport sur PS3. Puis quelques années après, j'ai découvert mon niveau sur FIFA et j'ai commencé à ratatiner des joueurs professionnels. » Donc, les Redditos de AskMec étaient chauds sur Counter-Strike à l'époque de la 1.5. Et quelqu'un dit « Tellement, j'avais un cybercafé juste devant le lycée, ça m'a coûté le bac à l'époque. Mon Dieu que je suis vieux. » Je suis très contente de pas être tombée dans Stardew Valley ou autre jeu bouffeur de vie pendant mes examens et mon bac. Parce que je ne peux pas résister à ce genre de choses. J'ai déjà regardé beaucoup trop de saisons de séries télé pendant que j'étais en train d'être censée réviser mes partiels. Si j'avais eu Stardew Valley, la MIF, ça aurait été le début de la fin. Je suis tombée sur Skyrim, c'était la fin de ma vie sociale pendant longtemps. À force. Justin dit, j'habitais au-dessus d'un cybercafé à 11 ans. Les LAN CS 1.5, c'était ma vie. Maintenant, je hais le jeu. Pourquoi tu hais le jeu ? Est-ce qu'au final, il est pas bien ? Ou est-ce que juste tu t'en es dégoûté comme quand tu tapes une cuite tellement vénère à la tequila que tu peux plus boire de la tequila ? Cette anecdote est vraie. La sortie de Diablo 1 en cybercafé, quel souvenir. Mais vous, vous aviez trop du budget pour aller au cybercafé. Moi, mes parents, c'était genre... Non. We have internet at home and video games at home being un CD de l'encyclopédie de la route des vins trouvé dans une boîte de pinard par mon daron, mais non, il n'y avait pas le budget cybercafé, hein. Sauf quand on était au Maroc, parce qu'il n'y avait pas internet à la maison au Maroc, et du coup on pouvait aller au cybercafé pour parler avec nos copains sur MSN et envoyer des mails, quoi. Mais et un peu jouer à des jeux en ligne éclatés, sauf non, il y avait Final Fantasy Tactics Advance. Final Fantasy, putain, le jeu de FF8, comment ça s'appelle ? Triple Triad. Dans FF8, dans Final Fantasy 8, il y a un jeu de cartes, comme dans FF9, qui s'appelle Triple Triad, et tu pouvais y jouer en ligne. Et ça, quand on a découvert ça, on avait encore seulement 50 heures d'internet par mois. Vous vous rendez compte, 50 heures d'internet par mois, incroyable. Donc on n'avait pas la DSL, on n'avait pas un forfait limité. On a éclaté les 50 heures avec ma grande sœur quand on a trouvé ce site, genre en même pas une semaine, mes parents ils étaient trop vénères, et après on n'avait plus internet, voilà. À mon époque, quasi personne n'avait internet at home. C'était en 97 et les modems, quand on était sur le net, on pouvait pas téléphoner. Allez, tard l'époque. J'aime bien ce petit moment nostalgie. Ce petit moment, oh là là, c'était le bon temps quand on n'avait pas internet à la maison. Adibou, un boss, nous dit Reddit, on le farmait en CM2. Ah, est-ce que quelqu'un a la ref ? Quelqu'un nous dit Tekken 3, je faisais des chicken de chicken pour les trois qui vont comprendre et être impressionnés. Alors, j'ai joué à Tekken 3, mais absolument pas de façon compétitive. J'avais vraiment 8 ans. C'est quoi un chicken de chicken ? Est-ce que quelqu'un l'a ? Crushtat, c'est imprenable sur Worms. Nous, on allait au cybercafé, nous dit Mr. Pink, pour jouer à CS Mod et les Tower Defense de Warcraft. Moi, au cybercafé, je jouais à O-Game et à Dofus. Anne nous dit « Je me suis acheté une console pour la première fois de ma vie cette semaine à 31 ans pour jouer à Hogwarts Legacy et je suis déjà en train de m'empêcher d'y jouer tout le temps. » Bienvenue, Anne. Alors... Si tu as acheté la Xbox, il faut prendre le Game Pass. Et c'est le Netflix des jeux. Et après, tous les mois, tu auras tellement de jeux gratuits, enfin inclus dedans. Je suis désolée, je suis en train... C'est vraiment... Je suis le pire dealer. Mais il y a un nouveau monde qui s'offre à toi, là, et tu n'es pas prête. Tu vas sauter dedans, ça va être trop bien. Un soir, je suis restée aux urgences parce que le téléphone était bloqué par Internet. Après, ma mère a pris un portable 3310. T'es resté aux urgences parce que tu pouvais pas appeler chez toi parce que quelqu'un était... En fait, à l'époque, quand on utilisait Internet, on pouvait pas téléphoner, et inversement. Minecraft, des nuits blanches légendaires pendant mes années de collège. Ah, bah, je sais que Nodus... T'es quand même un peu un pro-gamer de Minecraft aussi, quoi. Il acquiesce. Il m'a montré un peu, on a fait une partie de Minecraft. Au bout d'un moment, j'étais là. Il y a trop de choses et pas assez d'histoires pour moi. Mais c'était quand même rigolo, il y a des cochons cubes. J'avais enregistré au micro des sons pour chaque arme et mouvement sur Worms 2 Armageddon. Mais de quoi vous parlez ? Pourquoi t'as enregistré au micro des sons pour des armes et mouvements du jeu, Olendel ? I do not get it. Ah, Anne, t'as acheté la PS4 Pro. C'est pas grave, tu vas kiffer. Il y a plein d'exclus PlayStation, donc ça va être cool. Starfield, non, Starfield, c'est pas ma cam. Par contre, Sea of Stars, Eddie 2D, mais je connais Eddie 2D, c'est un copain de Nodus, nous dit, j'ai séché mon collège pour jouer à Battlefield Bad Company 2, j'ai failli pas avoir mon brevet, et finalement, j'ai eu une licence en game design, du coup, tout va bien. Le cybercafé était littéralement à côté du collège. Désolé, mais vous aviez pas des parents stricts, enfin... Moi, mes parents, ils m'auraient juste éclaté, mais j'ai vraiment l'impression d'être fucking Hermione Granger, mais je suis là... Mais vos parents, ils vous grondaient pas quand vous séchiez les cours? Genre... Vous arriviez vraiment à intercepter tous les mots, tous les carnets, l'école, le collège, il l'appelait pas et tout, parce que je dis pas que j'ai jamais séché les cours. Je dis pas que je me suis jamais fait des boîtes parce que je séchais les cours, quoi. Je me faisais taper sur les doigts, j'y allais quand même. Mais enfin... J'essaye d'imaginer mes parents si j'avais vraiment séché la moitié de mon collège pour aller au cybercafé. Je pense qu'ils m'auraient foutu à l'internat, tu vois. Ils m'auraient foutu en pensionnat en mode « Girl, go the fuck up », tu vois. Genre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? C'est pas possible. Voilà, c'était le moment jeux vidéo, courtesy of AskMec. On va aller voir ce qui se passe d'autre sur AskMec. On va faire un de chaque, un de chaque, un de chaque, un de chaque, et après on ira sur AskFrance. Qu'est-ce que tu penses du streamer Cassandre? Je connais son travail parce qu'il était intervenu en tant qu'expert sur les sujets des masculinités sur Mademoiselle. Je l'avais sollicité pour deux ou trois articles, notamment un article sur la journée de l'homme qui existe, qui est le 19 novembre. Et qui est beaucoup moins connu que le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et à chaque 8 mars, il y a des hommes pour dire « on n'a pas de journée de l'homme ». Du coup, j'avais fait un article pour dire bah, « guess what, déjà, il y en a une, donc n'hésitez pas à vous en saisir, c'est le 19 novembre ». Et dans l'article, j'expliquais que c'est pas inintéressant d'avoir une journée de l'homme, parce qu'il y a des vraies problématiques masculines à creuser, comme notamment la surreprésentation des hommes dans les taux de suicide, qui sont donc, les taux de suicide concernant les hommes sont environ 2,5 fois plus élevés que chez les femmes, et représentent environ 3% des décès masculins pour 1% des décès féminins. Et comme vous le voyez, Cassandre, qui à l'époque était encore étudiant-chercheur, je ne sais pas si il est toujours étudiant-chercheur ou juste chercheur ou juste streamer, était intervenu, donc je le connais par ce biais-là, plus que par sa chaîne, car je ne regarde pas je ne regarde pas spécialement Twitch, en vrai. Voilà, pas d'autre avis, à part qu'il a très gentiment apporté son éclairage de chercheur sur des contenus pas faciles sur Mademoiselle. Et merci à lui, du coup. Voilà. Ok, que nous dit AskMeuf? Est-ce que vous avez des passions atypiques? Pourquoi je n'ai pas d'orgasme? Est-ce qu'on parle de sexualité? Bah, allez, on va parler de sexualité un peu. C'est lundi matin. La personne nous dit « Hello, j'aimerais savoir s'il y a d'autres filles dans mon cas. » Donc on est sur une femme qui parle. « En gros, je n'arrive pas à avoir d'orgasme lors de rapports. Ce n'est arrivé qu'une seule fois avec mon partenaire actuel et c'était la seule et unique fois où j'ai eu un orgasme sans que j'en sois directement à l'origine. Pour info, j'ai eu quand même une relation assez longue, 6 ans, ainsi que 2-3 relations sans lendemain. Et dans ma relation actuelle, il y a beaucoup plus d'efforts mis dans les préliminaires, ce qui peut expliquer que j'y sois arrivée une fois. » Alors déjà, la personne dit « Pourquoi je n'ai pas d'orgasme ?» En vrai, voilà, elle n'a pas d'orgasme lors de rapports sexuels. Elle a des rapports... des orgasmes personnels, voilà. Et donc elle nous dit « Mais ça reste une exception, c'est compliqué pour moi car j'ai l'impression d'avoir un problème et pour mon partenaire qui a l'impression de ne pas me satisfaire alors que ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir, ce que je lui ai expliqué plusieurs fois. » Suite à deux. Donc la personne a mis à jour son post avec un edit en disant « Suite à de nombreux commentaires, voici quelques précisions. Je n'ai aucun problème à atteindre l'orgasme seul ni avec mon partenaire lorsque j'utilise des jouets ou ma main. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. » Donc elle a des orgasmes pendant les rapports en vrai. Je ne cherche pas à atteindre un orgasme via la pénétration, mais plutôt quand on se fait plaisir mutuellement avec la langue, les doigts, et c'est là que ça bloque. Ok. Je sais que ce n'est pas une fin en soi d'avoir un orgasme, ça fait des années que je me suis faite à l'idée que j'en aurais pas avec mes partenaires, et cela ne m'empêche absolument pas d'apprécier mes rapports sexuels. Merci à tous pour vos réponses. Alright. La top réponse, c'est... Donc a priori, maintenant, c'est des femmes, hein, les top réponses. Dit. En 5 ans avec mon copain, je ne réussis que 2 ou 3 fois à avoir un orgasme avec un cunnilingus. Je prends énormément de plaisir avec lui sans que ce soit en préliminaire ou par pénétration, mais il n'y a que avec moi-même que j'arrive à jouir. Tout ça pour te dire que tu es loin d'être la seule. C'est intéressant parce que moi j'ai vécu à ma petite échelle chez Mademoiselle un vrai cycle de réflexion autour de l'orgasme féminin qui a commencé avec une levée du tabou, donc l'orgasme féminin qui était un sujet quand même très peu abordé. Il y a 15-20 ans, il n'y avait pas des vibromasseurs en vente à Carrefour et des pubs pour le womanizer. C'était vraiment, le clitoris n'était pas un mot que je connaissais. Et rappelons que le clitoris est arrivé dans un manuel de SVT pour la première fois en attention, vous allez être ravis de cette année 2017. Voilà. Donc, autant dire que je n'ai pas été éduquée sur mon propre plaisir et mon propre orgasme. Et donc, j'ai vécu avec la montée de la nouvelle vague du féminisme la plus récente, donc je dirais dans les années 2010, fin des années 2000, début de la décennie 2010, une survalorisation de l'orgasme féminin, toute la démocratisation capitaliste aussi, hein, bien sûr, des produits et ressources dédiées à l'orgasme féminin, que ça soit des sextoys, mais aussi des gels, des crèmes, du porn spécialement pour les femmes, de l'audio érotique, de la littérature érotique aussi. Je pense que Fifty Shades of Grey, sorti il y a 30 ans, n'a pas le même, peut-être pas le même succès, parce qu'on est moins à l'aise avec le fait que les femmes se touchent et que les femmes jouissent. Ensuite, il y a eu un truc très surreprésentation du clitoris partout où voilà, il y avait des tags clito et tout. Puis on en est un peu revenu. Et il y a eu aussi une réflexion qui partait de il faut que les hommes qui relationnent avec des femmes sachent comment marche leur corps et comment les faire jouir et comment marche le clitoris et tout. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une course à l'orgasme à tout prix, quoi. Et en fait, il y a des gens, dont des femmes, qui ne vont pas atteindre l'orgasme par un rapport hétéroclassique, et c'est ok, on n'est pas non plus obligé d'en faire un objectif. Il y a des femmes qui s'en font un objectif, il y a des hommes qui s'en font un objectif, que leur partenaire jouisse de toutes les manières possibles. Et en fait, des fois, il y a des gens qui vont juste arriver à jouir avec leurs propres moyens, et c'est ok. Et ça veut pas dire, comme dit la personne, qu'on peut pas avoir des relations sexuelles épanouissantes. Et c'est pas que les femmes, puisque on en parle moins et c'est plus rare. Mais j'ai moi-même, je suis sortie pendant des années avec un mec qui n'avait pas d'orgasme, à part par lui-même. Qui, du coup, n'avait pas d'orgasme et pas d'éjaculation, sauf quand il se masturbait lui-même, ce qu'il faisait assez peu. Du coup, nos rapports ne finissaient pas avec son orgasme, puisqu'il n'arrivait pas. Laissez-moi vous dire qu'on a bien baisé. Voilà, on avait le temps. Et c'était pas un problème dans notre sexualité, mais ça m'a aussi amené vers des pratiques et un rythme différent, tout simplement, parce que j'ai été, comme tout le monde, un peu élevée dans l'idée qu'un rapport sexuel, ça s'arrête quand monsieur jouit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand monsieur ne jouit pas ? La suite au prochain épisode. Des longs épisodes, c'était vraiment un long grid. Donc voilà, sur Reddit, il y a en tout cas une personne qui dit moi aussi, je ne jouis pas pendant un rapport et is ok, donc tu n'es pas seule. Mais je peux me faire jouir pendant un rapport, donc je ne suis pas frustrée pour autant. Il y a ça aussi, c'est que en fait, si tu, mécaniquement, c'est toi qui te fais jouir avec ta main, mais c'est pendant un rapport avec ton partenaire, pour moi, en vrai, ça compte comme jouir pendant un rapport. Je suis là, on s'en fout, c'est la main de qui, quoi. Oui, c'est peut-être toi qui connais mieux le bon rythme et le bon niveau de pression à mettre et tout, mais c'est quand même pendant le rapport que ça se passe, c'est pas genre tu finis après, quoi. Quelqu'un dit c'est psychologique parce que avoir un orgasme c'est lâcher prise et c'est plus compliqué avec quelqu'un que seul. Ce à quoi la personne répond, en vrai pour moi c'est parce que j'arrive à jouir qu'avec un mouvement particulier. Moi-même je n'arrive pas du tout à me donner un orgasme autrement. Donc voilà, ça peut être psychologique, ça peut être un peu mécanique. Enfin la sexualité c'est les deux, quoi. Donc mais il y a pas forcément besoin. En fait au bout d'un moment si votre sexualité vous va, il y a pas forcément besoin de se prendre la tête avec un genre d'injonction à absolument jouir de telle et telle façon, à pouvoir avoir un orgasme dans telle et telle situation. Genre en vrai tranquille, quoi. Quelqu'un répond à la personne qui poste. Je suis dans le même cas que toi, ça m'est extrêmement difficile d'avoir un orgasme avec un partenaire, même si je prends du plaisir. Les rares fois où ça m'arrive, c'est moi qui en suis directement à l'origine, et encore ça prend du temps. Je comprends ce que tu peux ressentir. C'est frustrant si on y arrive seul, et c'est frustrant aussi par rapport à ton partenaire qui pense mal faire, ou tu n'as pas forcément envie qu'il passe des heures à essayer des trucs qui n'aboutiront pas forcément, et même par rapport à la société quelque part. Je sais que je me sens un peu diminuée par rapport à mes potes ou à d'autres femmes qui jouissent et prennent du plaisir très facilement. Après, ça arrive également aux hommes. J'ai connu un homme qui m'a expliqué que je pouvais le masturber autant que je voulais, il n'arriverait à prendre son pied que par lui-même, parce qu'il s'était habitué à des mouvements spécifiques lors de ses plaisirs solitaires. Et je vois sur le chat que ça dit « En vrai, la masturbation à la main a faussé mon rapport à l'orgasme, parce que j'ai appliqué beaucoup trop de pression et il m'a fallu désapprendre ça pour retrouver une sensibilité normale. » On va en parler. Le commentaire Reddit, je finis de le lire, dit « Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir seul sans partenaire ? Si c'est le cas, je pense que c'est surtout un souci d'ordre mental. Dans mon cas, j'ai remarqué que quand je suis avec un partenaire, mentalement, au lieu de totalement profiter et me laisser faire, je me mets la pression pour jouir. Je reste un peu tendue, autant physiquement que mentalement, j'arrive pas à lâcher prise. Ton plaisir, c'est toi seul qui peux vraiment savoir comment le faire fonctionner. N'hésite pas à te toucher, à prendre ton temps et à vraiment donner des instructions à ton partenaire si nécessaire. Investir dans des jouets peut aider aussi. » Oui, alors sur cette histoire de personnes avec un pénis qui, à force de trop serrer pendant la masturbation, peuvent se désensibiliser. Birdseye, tu nous le dis dans le chat, mais ça s'appelle effectivement le death grip. Mais je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé. Donc le death grip, c'est serré à mort. Ok. Alors, Healthline nous dit « Le syndrome de death grip n'est pas officiellement reconnu comme une condition médicale. La majorité des preuves qu'on trouve en ligne, c'est anecdotal, c'est-à-dire c'est des gens qui racontent juste leur expérience. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Certains experts, aucun lien, pensent que le syndrome du death grip est un sous-genre des problème d'éjaculation retardée, qui est une forme de dysfonctionnement érectile. De plus, l'idée générale du pénis qui devient désensibilisé car il est trop stimulé n'est pas nouvelle. Une recherche a montré que quelqu'un qui prend plus de plaisir à se masturber qu'à d'autres formes de sexualité a plus de risques de continuer dans ses habitudes, y compris des habitudes de masturbation assez spécifiques comme le fait de serrer beaucoup. Bisous Mister Pink, merci d'avoir été là et bon appétit à toute la maison de retraite. Donc voilà, je ne sais pas à quel point c'est prouvé, mais en tout cas il y a cette idée que j'ai beaucoup vue sur internet, d'hommes avec des pénis qui décident de se masturber un peu différemment, à la fois en réduisant leur recours au porno ou en changeant le type de porno qu'ils consomment aussi, parce qu'il y a aussi une idée où les gens ont l'impression de se désensibiliser, notamment des pratiques hardcore, et à aller vers des contenus porno de plus en plus vénères, et ils n'ont pas forcément envie de ça. Et se masturber différemment, y compris en serrant moins pour retrouver une sensibilité, une sensorialité qu'ils ont l'impression d'avoir perdue ou diminuée. Donc, qui suis-je pour dire aux mecs comment se toucher ? Personne. Donc, faites comme vous le sentez, guys. Mais juste faites attention à creuser un petit peu les conseils masturbation qu'il y a sur Internet, quoi. Il peut y avoir de tout, comme par exemple des bons conseils, mettre du lubrifiant, comme je le lis actuellement dans le chat, et des moins bons conseils, genre mettre sa teub dans une chaussette avec des nouilles dedans. Est-ce un truc que les mecs ont vraiment fait ? C'est trop répandu pour que je croie que c'est pas réaliste. Ok, là, du coup, la personne rappelle qu'en vrai, elle arrive à prendre du plaisir seule et même pendant les rapports, elle peut avoir un orgasme. C'est juste quand c'est son partenaire qui le fait que ça ne vient pas. J'ai envie de dire, c'est pas forcément très grave, même si je comprends que ça peut être frustrant. Ok, on a parlé sexualité sur Ask Meuf. De quoi c'est à cause sur Ask Mec, à part de jeux vidéo ? On va voir ça. Je suis contente parce que déjà, on n'est pas que sur des questions rapport homme-femme. Ah, on va faire les problèmes. Ma femme ne prend plus soin d'elle. Généralement, le terme « prendre soin de soi » veut dire « ma femme a pris du poids ». Ce qui peut être un sujet. Mais ce qui aussi parfois laisse la vivre, non ? Mais voyons, on ne va pas juger avant d'avoir lu. La personne dit « Hello, j'ai besoin d'un conseil ou juste de discuter. Je me suis mariée juste avant le premier confinement et à cette époque-là, ma femme prenait soin d'elle, faisait des sorties avec ses amis, du sport, etc. Aujourd'hui, après 3 ans, elle a pris 15 kilos et ne fait plus rien. » Bon, 15 kilos en 3 ans, est-ce la fin du monde ? I don't know. J'ai pris un abonnement duo à la salle de sport, mais elle ne vient pas car elle a peur de l'hygiène des gens et de choper un virus. Je commence à être saoulée car j'essaye de prendre soin de moi, d'avoir une bonne hygiène de vie et de son côté, c'est pas pareil, elle se laisse aller. Alors...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Déjà, ouais, beau gosse sur le poids, on me dit dans le chat. Écoutez, prendre soin d'une femme qui ne prend pas soin d'elle, on sait ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire une femme qui n'est pas mince et qui n'est pas bonne. En fait, il y a beaucoup de choses rentrées dans prendre soin d'elle. Il dit, après 3 ans, elle a pris 15 kilos. Bon, en soi, maybe Osef. Et ne fait plus rien. Alors, si elle fait plus du tout de sortie, qu'elle voit plus ses amis et tout, bah peut-être elle va pas bien. Il dit qu'ils se sont mariés juste avant le Covid et qu'en 3 ans, tout a changé. C'est aussi 3 ans de pandémie, de guerre, etc. Il y a des gens qui ont eu des séquelles psychologiques lourdes et qui sont encore dedans et qui ont une peur où ça peut avoir plongé en dépression ou des choses comme ça. Lui, il dit, j'ai pris un abonnement duo à la salle de sport. Bah, déjà, peut-être demande-lui avant de prendre un abonnement duo. On ne sait pas s'il y a eu discussion. Mais elle ne vient pas car elle a peur de l'hygiène des gens et de choper un virus. Donc, moi, ça me dit que voilà, si elle ne fait plus rien depuis le Covid et que sa raison, c'est j'ai peur de choper un virus, Maybe c'est plutôt ça qu'il faut creuser. Il y a des gens qui ont vraiment été traumas par la pandémie, quoi. Et il y a des gens qui ont vraiment peur de tomber malade. Il y a des gens qui ont perdu des gens. Il y a des gens qui ont des Covid longs, etc. Bref. Le mec est saoulé et je suis là, mais tu lui as demandé pourquoi elle est comme ça? Et aussi, il n'y a pas que la salle de sport dans la vie. Genre, tu peux aussi te dépenser différemment et prendre soin de toi sans aller à la fucking salle de sport en duo, quoi. Donc le top commentaire dit « Un changement d'attitude comme cela, c'est plutôt inquiétant. Est-ce que tu lui en as parlé? Y a-t-il eu des événements dans sa vie susceptibles de l'impacter ?» Et quelqu'un répond « Je seconde ça, le mieux c'est de lui parler. S'il en sort quelque chose, tu et surtout vous pourrez voir quoi faire, par exemple voir un psy dans certains cas. Du point de vue d'un gros, ma copine m'a réintroduit au sport petit à petit. Chaque soir, on va courir jusqu'à ce que je ne puisse plus et chaque fois, on fait un peu plus. Je trouve que la salle, c'est bien, mais si t'as pas envie, c'est terrible. Pourquoi pas tester d'aller nager quelque part avec cette chaleur, courir, marcher pour découvrir vos alentours, faire un peu de vélo pour se déplacer ou des choses comme ça. Clairement, oui, il n'y a pas forcément que la salle dans la vie. Alors, sur le chat, je suis trop sévère si je dis qu'il ne mérite pas sa meuf. On ne sait pas encore, Birdseye. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour juger. J'entends « elle fait plus rien » par « elle fait plus de sport ». Oui, c'est peut-être ça qu'il veut dire. On va voir si ça veut dire qu'elle ne voit plus ses amis et tout. Peut-être qu'il a apporté des précisions. Le poids, en plus, nous rappelle Birdseye, c'est davantage l'alimentation que le sport, tout à fait. Et parfois, si la personne est stressée par l'état du monde, bah parfois on répond à l'anxiété en consommant plus de nourriture et plus de nourriture réconfortante. Et si bah, la personne est stressée par sortir dehors parce que les virus et tout, bah, mathématiquement, effectivement, elle se dépense moins, y compris avec les petits trucs du quotidien, de marcher jusqu'au supermarché, etc. Mais du coup, le problème n'est pas qu'elle a pris 15 kilos et qu'elle est donc moins baisable. Le problème, c'est comment va ta femme, mec? Est-ce que ça va, ta femme? Tu lui as parlé? Tu lui as demandé si ça va? Pas sûr. La très mauvaise gestion de la crise sanitaire a traumatisé une partie de la population, nous rappelle Reddit. Le sport en asso, c'est moins cher, ça crée du lien, il y a du choix. Oui, et puis si jamais le problème, c'est le sport avec des gens dans un espace fermé, parce que ça peut être ça si elle a peur des virus, bah, j'imagine que genre aller courir dans un parc, c'est moins risky, I guess. Je suis pas... Je suis pas spécialiste des pandémies et des virus, ok? Pas besoin d'aller à la salle pour perdre du poids, nous rappelle Reddit. Faut couper à la source et manger moins de cochonneries, réduire les calories. Comme les autres, je pense aussi qu'il faut voir côté dépression, peut-être qu'il faut qu'elle consulte. Et quelqu'un dit, oui, je lis ça de plus en plus, pour perdre du poids, c'est surtout du côté de l'alimentation qu'il faut agir. Le sport a beaucoup de vertus, notamment pour lutter contre les baisses de morale, mais moins qu'on ne le pense concernant la perte de poids. Écoutez, bon, là-dessus, je suis pas médecin. Si vous voulez perdre du poids, je vous encourage à écouter mon live et mon podcast où je parle de ma perte de poids et à écouter spécifiquement le moment où je dis allez voir des spécialistes et des professionnels de santé si vous voulez perdre du poids. Ne croyez pas les régimes et les streameuses qui ne sont pas professionnels de santé. Voilà. Et un dernier commentaire sur ce sujet. Reddit nous dit, il y a peut-être quelque chose qui la bouffe intérieurement, surtout si elle n'était pas comme cela auparavant. Tu devrais lui proposer une discussion et essayer de mettre au clair le problème. Ça pourrait être juste la routine qui fait qu'on se laisse aller comme quelque chose de plus profond. Mets-la en confiance et demande-lui ce qui se passe et ce qu'elle ressent. Si besoin, propose-lui d'en parler à un professionnel de santé. Puis c'est bien d'avoir pris l'initiative de prendre un abonnement duo à la salle, mais lui as-tu demandé son avis avant? Il n'est pas impossible qu'elle soit sentie blessée si tu lui as demandé de t'accompagner de but en blanc, d'où son refus. La connexion entre « j'ai pris du poids » et « ça le dérange », ainsi que plein d'autres questionnements. Écoutez, je vous vois dans le chat être en mode « oh là là, c'est chiant, ask mec sur Reddit, etc. » Les commentaires sont bons, les commentaires disent ce que nous on dit, ils disent « est-ce que tu lui en as parlé ? Comment va sa santé mentale ? Faut arrêter la fixette sur le poids et le sport ? Et est-ce que tu lui as demandé son avis avant de vous prendre un abonnement à la salle ?» Donc, on est raccord, il y en a des biens. Les réponses sont toutes pro-gas, mais pas du tout. Enfin, de quoi parlez-vous ? Est-ce qu'on lit les mêmes choses ? Je vous les lis à voix haute quand même, hein. Il faut voir du côté dépression, faut peut-être qu'elle consulte. Bah, c'est peut-être pas dit avec énormément d'empathie, mais c'est exactement ce que j'ai dit en premier. C'est comment va la santé mentale de cette personne et est-ce qu'il n'y a pas un peu d'aide à trouver à ce niveau-là? Donc, quid. Ah, Choupi nous dit, depuis 7 ans, j'ai enchaîné les problèmes de santé jusqu'à rester alité 2 ans. Oh, du love. Conclusion, de 50 kilos, je suis passée à 80. Mon mari me dit que je suis toujours magnifique et ça n'a pas de prix. Eh bien, je pense que ton mari a raison. Ah, Justin dit... Je me demande pourquoi il a choisi Ask Mec pour poser sa question et pas Ask Meuf. Alors, des fois, il y a des gens qui les postent dans deux subreddits. Et bah, ça peut être la logique de peut-être que des mecs ont déjà été confrontés à ma femme se laisse aller, ne prend plus soin d'elle, et pourrait m'aiguiller là-dessus. Et peut-être qu'il s'est douté que les femmes lui diraient principalement lâche-lui la grappe. Donc, ok, je suis d'accord que les réponses, elles disent pas lâche-lui la grappe, mais les réponses, elles disent en fait comment elle va ta meuf. Il veut pas comprendre sa meuf, il veut la changer. Bon, après, on va pas non plus juger tout un gars sur un post Reddit de trois paragraphes mal formulés. Je dis pas qu'il est tendre dans son approche, et je vous ai dit direct, à mon avis, prendre soin de soi, ça veut dire elle a pris du poids. Mais oui, voilà, comme dit Ezoc, il y a aucune réponse qui fonce dans le tas sur le mec, mais toutes relèvent que le mec a vraiment fait le con. Voilà, donc ça va, on n'est pas obligé. Oh là là, vous êtes misandre. Non, mais en vrai... ça va, le mec a pas l'air top. Mais est-ce que je peux prétendre le connaître sur la base de ce post Reddit ? C'est peut-être un peu fort de café, quoi. Hello Sakura, hello, welcome. Je te vois souvent ici, bienvenue. Ça me fait plaisir que ça te plaise, qu'il se raconte. On retourne sur Ask Meuf. Je vais chercher un post avec un peu de commentaires. Bon, ça parle de ménopause, on a déjà parlé menstruation. On va peut-être pas double doser, c'est lundi pour tout le monde. Ah ! Comment vous gérez cette vision de l'amour des relations ? Écoutez, on vient de faire un post-couple vu par les mecs, on va faire un post-couple vu par les femmes. C'est une femme de 20 ans qui nous dit « Hello. À force de défiler sur Ask Mec et Ask Meuf, j'ai remarqué des points communs sur la vision de certains sur l'amour. Je vois souvent passer des messages de manière très calme qui passent normal ou peu rebondissent dessus sur le sujet de se lasser. » Donc la personne parle de se lasser en amour, j'imagine. « Je viens de passer la vingtaine et je me rends compte que beaucoup semblent avoir complètement intégré le fait qu'à un moment, notre partenaire nous fait chier. Je ne parle pas de haut et de bas de couple, mais de réel désintérêt sexuel et relationnel. Beaucoup d'hommes semblent se lasser rapidement du physique de leur partenaire, même quand ils étaient de gros fans au début. L'utilisation de porno sert souvent de rafraîchissement pour voir d'autres femmes et non pour l'acte sexuel ou le kink. Pour mon exemple, je ne regarde pas de porno pour les corps, mais beaucoup plus pour l'esthétique ambiante, l'acte, etc. » J'ai énormément de mal avec ça et j'avoue ressentir un dégoût grossissant dans ce genre de cas. Pourquoi un homme ne se contente pas de la femme qu'il a choisie ? Pourquoi dès que ça commence à faire un petit moment et que cette flamme baisse, il choisisse de vivre avec au lieu de la rallumer ou de se séparer ? Je suis consciente du fait que l'attirance pour les autres, surtout physique, ne s'arrête pas parce qu'on est en couple, mais de là à agir de cette façon et à être aussi ok avec le sujet. Est-ce que c'est le passage à l'âge adulte et donc les hommes que je fréquente ou que j'ai en exemple que je vois changer de mentalité ? Peut-être que j'ai une vision plus romancée unique de l'amour quand on est jeune. Mais oui, j'ai l'impression de me prendre un sacré mur. Je pensais qu'il suffisait de bien choisir, mais le schéma a l'air de reproduire dans énormément de relations. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi en tant que femme ? Et est-ce que c'est une fatalité ? Et comment vous gérez ça en couple ? De quoi tu parles, Crochetats ? Le collègue qui met des olives. What ? Mets le lien dans le chat. Ok. Donc en gros, on a une femme de 20 ans qui dit qu'elle a constaté que ça a l'air assez répandu et accepté, qu'au bout d'un moment, en couple, on se lasse, mais que c'est surtout les hommes qui vont se lasser, notamment du physique de leur femme, et qui... Ah non, pardon, il y avait un bruit de travaux, et j'ai cru que c'était un bruit d'insecte, j'étais là, oula, c'est un gros insecte, car c'est une meuleuse, de toute évidence. Donc ils vont se lasser du physique de leur femme, ils vont se mettre à désirer d'autres gens, ou en tout cas à alimenter leur libido différemment, notamment par le porno. Et la personne, la jeune femme qui poste, trouve ça plutôt dégoûtant et comprend pas pourquoi ils quittent pas leur femme s'ils la désirent plus. En gros, c'est ça. Donc déjà, elle part du principe que c'est très masculin comme comportement. Elle parle pas des femmes qui se lassent du corps et des relations sexuelles avec leurs compagnons. Et elle n'a pas l'air de s'inclure dans « ça peut se lasser ». Elle nous dit rien sur sa propre expérience. Est-ce qu'elle a déjà été en couple, etc. Est-ce qu'elle a déjà été en couple un peu long ? Et est-ce qu'elle a déjà vécu ce petit moment où voilà, les papillons du début s'arrêtent, quoi ? Ok, Crochetats, j'irai voir. Donc, le top... Alors déjà, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat ? Je pense que c'est... En fait, ça rentre dans mon truc de... L'exclusivité, c'est... pas quelque chose avec lequel moi je suis en phase, c'est pour ça que je suis en relation libre. Et sans dire que tout le monde devrait être en relation libre, je fais pas du prosélytisme, je pense que l'exclusivité c'est compliqué pour plein de gens, en partie parce que bah oui, on se lasse entre guillemets au bout d'un moment. En tout cas, la nouveauté et la diversité, bah ça permet aussi de réalimenter la libido et l'imaginaire sexuel. Et je suis pas sûre qu'on soit des mammifères monogames et exclusifs de naissance. Je pense que les taux d'infidélité montrent que non. Et que du coup, c'est à la fois possible et peut-être normal que la libido et le désir pour un corps qu'on voit tous les jours baissent. Ça veut pas dire que c'est pas possible de dynamiser les choses, de rallumer la flamme, comme on dit. D'ailleurs, la personne dit « je comprends pas pourquoi les hommes essayent pas de rallumer la flamme ». Bah, je suis d'accord. Pour le coup, il y a des choses qui peuvent être faites. Les hommes, historiquement, ne communiquent pas forcément beaucoup statistiquement sur leur sexualité, leur fantasme et leur bien-être sexuel, parce qu'ils sont pas trop éduqués à y réfléchir non plus. Là où les femmes ont un milliard de presse féminine pour les faire réfléchir sur est-ce qu'elles sont épanouies sexuellement, ce qui est good, mais les hommes aussi ont le droit d'y penser.
Mais je suis aussi en mode, c'est pas parce qu'on regarde du porno que, enfin, c'est pas grave de regarder du porno. C'est pas parce qu'on regarde du porno qu'on désire moins la personne à qui on est. Donc peut-être que parfois on regarde du porno parce qu'on désire moins la personne à qui on est. Mais le sujet, c'est, ok, je désire moins la personne à qui je suis. Est-ce que c'est grave aussi? Il y a des couples qui sont là. En fait, on baise une fois tous les mois et it's good, quoi. It's very ok. Tant que personne n'est frustré. Donc, et je pense aussi que c'est moins genré que ça et que il y a, bah, on entend aussi, cette idée comme quoi dans les couples, au bout d'un moment, madame, ses ceintures, elle a la migraine, elle veut pas coucher avec le mec. Alors ça alimente cette idée reçue bizarre selon laquelle les femmes n'aiment pas vraiment le sexe. Je suis là, plutôt des gens qui ne savent pas trouver le clitoris, à mon avis. En tout cas, je ne pense pas que la plupart des femmes génétiquement n'aiment pas le sexe. Je pense que quand c'est bien fait, c'est quand même chouette pour beaucoup de gens. Mais cette idée que les femmes utilisent le sexe comme... un genre de levier de négociation dans la relation et pas parce qu'elles aiment ça, mais en fait il y a aussi ce truc de bah, peut-être que les femmes elles aussi qui l'ont cru après quelques temps, quelques années avec la même personne, bah oui, voir son mec tout nu ça a moins de force qu'au début où t'es là putain il est quand même ce corps là, j'ai pas encore trop l'habitude de le voir, il est bien. Bah des fois il faut se rappeler que hey, même si j'ai l'habitude de le voir, il est bien quand même. Donc voilà, tout est une question de volonté, nous dit Brian. Mais oui, je suis d'accord. Déjà, nous dit Choupi en notre Choupi, il faut prendre en compte que la libido est une chose fluctuante et pas forcément en symbiose avec son ou sa partenaire. C'est vrai, la libido fluctue, on a tous et toutes des cycles hormonaux, des évolutions de libido qui peuvent être décidées aussi par ce qui se passe dans nos vies, tout simplement. Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on a la tête à ça, comme on dit? Est-ce qu'on est détendu? Est-ce qu'on est en vacances? Est-ce qu'on fait la sieste à poil au soleil? Vous pourrez peut-être deviner que j'ai besoin de vacances. Donc oui, la libido fluctue et une baisse de libido, ça veut pas forcément dire je désire moins mon partenaire. Ça peut être juste je désire moins avoir des relations sexuelles en ce moment, quoi. Donc, sur Reddit, ça nous dit. Je ne sais pas ce que tu considères comme longtemps, mais je suis en couple, donc c'est une femme qui répond. Mais je suis en couple depuis 3 ans et je ne ressens pas du tout ça de la part de mon partenaire. Il y a une routine qui s'est installée, mais je pense que c'est inévitable à moins d'être un rentier millionnaire, mais on est aussi plus à l'aise 100% nous-mêmes. Je pense qu'il faut trouver quelqu'un de mature qui fasse la part des choses et ne te considère pas comme acquise avec le temps. Et bien sûr, faire pareil de ton côté. Je suis contente que ça rappelle, ça marche dans les deux sens, quoi. Et un autre commentaire nous dit « Hello, moi aussi je suis un peu effarée par ce genre de discours. Ça peut te rassurer, je suis avec mon compagnon depuis bientôt 8 ans et il est toujours extrêmement romantique et me montre son attirance au quotidien. Il ne consomme pas de porno et n'utilise évidemment pas des photos enregistrées de connaissances, ce que défendait beaucoup sur AskMec il n'y a pas longtemps. J'avoue néanmoins que s'il y avait eu rupture ou accident, je ne me remettrais pas avec un homme tant je considère avoir eu de la chance en l'ayant trouvé, je suis bi. » Ok, c'est confus, mais il y avait un sujet où il y a des hommes, il y a des gens, mais là, dans l'exemple, c'était des hommes, qui enregistrent dans leur téléphone des photos, par exemple, d'une pote ou d'une ancienne camarade de fac qui a posté une photo en bikini sur Instagram, qui les enregistrent pour se masturber dessus. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal parce que... Dans ma tête, je me dis, si tu fantasmes, tu te crées un fantasme sur ton collègue de bureau et que tu te touches en pensant à ton collègue de bureau, bah, c'est dans ta tête, t'as le droit, tu fais rien de mal. Mais c'est plus chelou quand il y a une photo. Je suis d'accord, dans le chat, ça dit c'est glauque, c'est sale, c'est chelou quand même. Et je suis là, ouais, c'est plus chelou de le faire devant une photo, je trouve. Et en même temps, pourquoi c'est plus chelou de regarder une photo de mon collègue de bureau en short de bain que de l'imaginer à poil? Poser question, quoi. C'est vraiment immoral, je sais pas. Elles ont pas consenti à se faire prendre en photo, encore moins à cet usage. Alors, on parle de photos postées sur Internet, donc si. On parle pas de revenge porn ou de photos volées. Et encore moins à cet usage, bah en fait, tu peux jamais consentir à ce que des gens fantasment sur toi. Tu peux consentir ou pas à ce qu'ils t'envoient ces fantasmes, mais à partir du moment où la meuf le sait pas et où le gars il va pas lui dire « Ah oui, je me suis bien branlée sur ta photo en bikini hier, ce qui est bizarre, ne faites pas ça », I don't know. Ouais, ok, Cadlo dit « La meuf a pas accepté que sa photo soit enregistrée sur le téléphone. » À la limite, ok, c'est le seul truc où je peux dire « Oui, là, on peut avoir un problème éthique, mais est-ce que personne dans le chat n'a jamais screené une random photo de quelqu'un pour la montrer en mode « Ah bah tiens, j'ai eu un date hier avec un mec, je screen sa photo, j'envoie une pote, tu vois. » Genre, en vrai, on l'a tous et toutes fait. Donc, là, comme c'est en support masturbatoire, ça nous dérange. Si c'est une personne qui est plus dans ta vie, pourquoi pas, I guess, mais je serais très mal à l'aise si mes potes faisaient ça sur des photos à moi. Mais je serais plus mal à l'aise si un pote me dit « je me suis masturbée sur une photo de toi » que si un pote me dit « je me suis fait un rêve érotique avec toi et je me suis masturbée ». Alors je serais pas hyper à l'aise dans les deux cas, je serais là garde-le pour toi, éventuellement. Ça ne m'intéresse pas. Mais je pense que je trouverais ça plus chelou de l'imaginer en visuel, à regarder une photo, que de l'imaginer. Mais en même temps, il peut m'imaginer faire des dingueries, tu vois. Donc c'est, en vrai, c'est de base, ça choque. Enfin, ça choque. Je pense que ça dérange, tu vois, en premier lieu. Ça a dérangé aussi dans le chat. Et en même temps, je suis là. Non, je parle pas d'un rêve érotique en mode un vrai rêve où on dort. Je parle d'un fantasme érotique comme on peut se raconter quand on se masturbe, bah, sans support, où on s'invente une situation érotique dans la tête qui nous excite, quoi. On se représente des actes et tout. C'est peut-être pas tout le monde qui fait ça, mais moi, oui. Et pas mal de monde, je pense. Donc je parle pas d'un rêve qu'on contrôle pas. Je parle de, ah, tiens, cette personne m'excite. Je vais m'imaginer avoir un rapport sexuel avec elle pendant que je me masturbe. En quoi c'est pire que de se masturber sur la photo de la personne ? Je ne sais, enfin, pire ou moins pire. Je ne sais pas, c'est bizarre. Hein. Si la personne le dit jamais, bon, bah, il fait de mal à personne, entre guillemets. Bah ouais, je suis d'accord. Bah, on peut dire que le problème, c'est l'action d'enregistrer la photo, mais du coup, si juste après la personne la supprime, est-ce que c'est OK ? Ou si elle l'enregistre pas, elle ouvre juste la page Instagram de la meuf et elle monte la photo. Tu vois, il n'y a pas de screen. En vrai, on s'en fout du coup. Cadlo, vu que c'est ça qui. Jamais de touchette sur une personne que je suis susceptible de rencontrer. C'est bizarre comme règle. Mais parce que moi, je me touche pas sur des gens, en vrai. Je me touche pas sur des gens qui existent. Je vais pas me toucher sur Tom Hardy. Bref, les gens n'ont pas de tête dans mes fantasmes. Je n'ai fantasmé que sur des personnes célèbres et mes amoureux, alors je me rends pas compte si c'est OK ou pas. Quid de... Ça, je sais que c'est un sujet. Est-ce qu'à la fin d'une relation, tu supprimes les nudes et tout ? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Supprime les contenus. Mais quid de se masturber en repensant à son ex, quoi ? Why not ? Si c'était bien. Si vous avez une bonne partie de jambes en l'air et que tu dis « Ah, bah là, l'énergie sexuelle de cette personne, c'est ça qui m'excite là tout de suite », bah, let's go. Je dirais juste supprimer les données, les photos et tout pour des questions de risque, quoi. Pour la personne, c'est mieux. Et pour le coup, elle a pas consenti. Mais est-ce qu'on supprime les sextos ? Est-ce qu'on supprime la conv entière ? Tu vois, c'est... Est-ce que c'est pire de garder une photo de... la paire de fesses de ta meuf où on voit pas sa tête, ou de garder les longs messages où elle te raconte ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Qu'est-ce qui est le plus intime, finalement ? Je supprime les nudes juste après qu'on me les envoie pour la confiance. Ok, good. Je suis pas contre les garder tant que la relation, elle dure, tu vois. Là, je suis plutôt en mode une fois que c'est rompu. Ouais, mais tu vois, Starkey, tu dis, on sait très bien qu'à partir du moment où on poste des photos sur des réseaux, il y a forcément des dégénérés qui feront des dingueries. On parle pas de dégénérés qui font des dingueries. Déjà, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais on parle juste de gens qui se masturbent sur des gens en pensant à des gens qui les excitent. C'est un peu le principe de la masturbation pour plein de gens, quoi. Donc, je sais pas si c'est des dégénérés qui font des dingueries ou juste des gens qui sont excités par des personnes qu'ils connaissent, qui, moi, m'arrivent peu. En fait, je me suis jamais... fantasmer coucher avec quelqu'un de la vraie vie, quoi. Donc j'ai pas ce problème, mais je me pose la question. Mais par contre, j'ai déjà relu des sextos, des échanges de sextos que j'avais eu avec des ex des années après, en mode c'était bien chauffé, je vais chercher ce petit mot-clé, God bless le cloud qui se souvient de tout, et puis let's go, quoi. Voilà. Mais je pensais pas à mon ex à ce moment-là. C'était juste, je relisais le truc qui m'avait excité. La sexualité, c'est quand même fascinant. Que soit les nudes ou les textos, c'est des trucs envoyés dans un contexte où il y a de la confiance. Quand on rompt, ce rapport change. Donc pour moi, il faut soit supprimer, soit oublier, je pense. Après, c'est dans ta tête. Mais pareil, pas de gens de la vraie vie. Ok, donc comme le rapport change, le contexte change, et du coup, posséder ces photos n'est plus ok. Donc là, je suis d'accord. Mais tu peux pas oublier les parties de jambes en l'air que tu as eues et tout. Et je sais pas, si elles t'excitent à un moment et que tu te dis « Tiens, je vais me branler en pensant à... » quand on a baisé sous l'orage avec mon ex il y a 4 ans. Est-ce que c'est grave, ma foi ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais ce n'était pas exactement... Bah, c'était un peu le sujet quand même, parce que voilà, la question c'est, est-ce que c'est grave de se masturber en regardant d'autres personnes, que ce soit des actrices et acteurs professionnels, ou en allant chercher tout simplement d'autres sources d'excitation que la personne avec qui on est ? Et ça a l'air d'être quelque chose qui fait parler. Ah, on a une réponse de quelqu'un qui dit « J'imagine qu'il est très confortable d'être en couple sur le plan matériel et organisationnel, qu'on n'a pas une estime de soi au top et que si on n'a pas discuté en amont de ce qu'on attend du couple, on reste faute de mieux. Et que si on n'a pas d'exemple de couple profondément heureux et volontaire, on se dit que c'est normal et qu'on ne peut pas espérer mieux. La chose la plus belle qui m'est arrivée a été de me mettre en couple avec un homme avec qui nous avons réfléchi et choisi ensemble nos règles dès le début de la relation. Faites ça chez vous !»
Choisir ses règles a été une vraie source de liberté, de tranquillité d'esprit en soi, quelle qu'elle soit, qui dit plus de confiance, moins d'anxiété par exemple. En plus, dans notre cas, ces règles sont hors normes. Nous savions tous les deux avoir besoin de continuer à se sentir désirable et désiré par d'autres personnes. Nous avons choisi de sortir en club libertin par exemple. De pouvoir faire l'amour avec d'autres couples ensemble et désirer d'autres personnes ensemble nous fait continuer à nous désirer l'un l'autre. Et oui, et oui. Mais j'encourage effectivement à décider ces règles de couple au tout début, voilà, parce que c'est le bon moment pour en parler. Après, il est un peu trop tard parfois. Bon, c'est quoi cette histoire d'olive ? Pourquoi ma collègue passe son temps à me mettre des olives ? What the fuck ? What the fuck ? Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une olive, c'est une agression sexuelle, en tout cas, c'est un toucher à caractère sexuel, puisqu'il s'agit de pénétrer à travers les vêtements, analement, une personne avec son doigt. Donc ça demande une pression assez... on en parle beaucoup parlé de parties génitales hein, aujourd'hui et de tout ça. Donc ça consiste à enfoncer son doigt dans le cul d'une personne à travers ses vêtements. Voilà, il y a des gens qui trouvent ça drôle. Je suis là, what the fuck. J'ai appris que ça existait il y a quelques années. On avait fait un article sur Mademoiselle. Oui, mais forcément, on a des recettes à l'olive, là. Ah non, j'avais fait un truc sur le chabit. Et où ça parlait du jeu de l'olive. Donc le chabit, c'est taper sur les parties génitales d'un mec pour le fun. Et l'olive, c'est mettre un doigt dans le cul de généralement un mec. Hein, j'ai pas l'impression que ça se fait beaucoup à des femmes. Peut-être parce qu'on a compris que c'est pas bien de pénétrer analement les gens sans leur consentement. Et il y a des hommes qui le font, mais il y a aussi des femmes qui le font. Et donc là, on a un mec qui demande « Pourquoi ma collègue passe son temps à me mettre des olives ?» Bonjour à toutes, désolée pour le titre un peu what the fuck. Depuis quelque temps, j'ai une collègue, également très bonne amie, qui passe son temps à me toucher le cul ou carrément me mettre des olives au taf. Il lui arrive de toucher les fesses d'autres collègues en blaguant, mais une fois dans la semaine, quoi. Moi, ça arrive une dizaine de fois par jour. Un jour, j'ai blagué en lui disant que j'aimais ça. Je lui ai également confié que ma chérie aimait jouer avec mes fesses. L'autre jour, à table, elle mangeait une figue, me regarde, me dit « c'est ton cul » et croque dans la figue en me fixant. Il y a un temps et un lieu pour tout. Le travail n'est pas ni le temps ni le lieu pour ça. Ma copine me dit que c'est sûrement parce qu'elle se sent en confiance avec moi qu'elle sait que je ne tenterai jamais rien avec. Qu'en pensez-vous ? Sans me faire pour autant des idées, je m'interroge pas mal. Nani, what the fuck ? Chantal de la Compta Énergie, Steph DRH finalement. C'était des filles qui faisaient l'olive en classe de terminale. Elles le faisaient à des mecs ou à des meufs ? On dit, il y a un truc comme ça au Japon aussi. Dans les guignols de l'info, il y avait tout un arc chabit. Et avec le recul, je suis choquée. Ils traitent ça comme un gag. C'est toujours traité comme un gag par beaucoup de gens. Alors, ouais, moi, je n'ai jamais compris. Hein. J'ai vraiment découvert ça il y a quelques années. J'étais en mode, what the fuck ? C'est quoi comme travail ? Ça peut être un taf de bureau, en vrai. Hein. J'avais parlé avec une lectrice de Mademoiselle qui, dans le cadre de son travail, faisait aussi des formations des formations de sensibilisation au harcèlement sexuel au travail et à comment avoir un environnement de travail safe pour tous et toutes, et qui devait expliquer à des grands darons de 52 ans que avoir un fond d'écran qui est une image full porno, ce n'est pas correct dans un open space. C'était vraiment lunaire, mais c'est ainsi. Donc ça peut être un peu n'importe quel travail. 10 fois par jour, on met un doigt dans le cul pour rire au boulot. C'est exactement ce qui se passe. Donc c'est grave. Et ce n'est pas parce que c'est un mec et une fille qui le fait que c'est moins grave, bien évidemment. Et je pense que AskMeuf sera d'accord avec nous. Hein. Alors, top commentaire. Perso, je trouve juste ça bizarre. Attendez, pourquoi vous ne le voyez pas ? Voilà. Alors j'avoue que perso, je trouve juste ça bizarre. C'est peut-être que moi, mais toucher le cul de quelqu'un sans son accord, encore plus une olive, c'est une agression. Si tu te sens pas mal à ce sujet, tant mieux. Mais je trouve ça très inapproprié de sa part, encore plus dans un cadre professionnel. Tout à fait. Salut Yasmadoka. Birdseye qui dit « J'ai blagué en lui disant que j'aimais ça, ça sent le mécanisme de défense. » Alors ça peut être ça. Parfois, on réagit à une agression par l'humour et en essayant de se mettre dans le bon côté de la personne qui nous agresse. Ça peut être un truc de sidération aussi. Ou ça peut être, en fait, ce coup-là, c'était juste une blague en mode « Oh, j'aime bien que tu me touches les fesses, voilà. » Mais il n'a pas signé pour 10 fois par jour, quoi. Parce qu'en plus, apparemment, elle le fait beaucoup moins aux autres. Et d'ailleurs, un autre commentaire dit « Mais c'est hyper intrusif comme comportement. Elle te touche les fesses 10 fois par jour. Ça rentre dans le cadre du harcèlement sexuel au travail. Comment tu ressens la chose ?» Et le gars répond « J'aurais dû préciser, désolé, j'en rigole avec elle, bien sûr. Si j'avais exprimé le moindre mécontentement, elle aurait arrêté immédiatement. Je blague en disant que je vais faire pareil, ce que je n'ai jamais fait et ne ferai jamais, bien sûr. Elle a un caractère extrêmement joueur, elle passe sa journée à se cacher pour me faire peur, etc. Je suis épuisée par cette personne déjà. Je peux comprendre qu'on peut considérer ça comme une agression sexuelle, mais pour ma part, dans ce cas précis, je ne vois pas cela comme ça. » D'accord, tant mieux que tu le vives comme une forme de complicité et pas comme une agression, mais du coup, c'est quoi la question que tu nous poses ? J'ai pas bien compris. Et la personne dit, je me demande pourquoi elle fait ça. Ma femme me dit qu'elle fait ça avec moi parce qu'elle sait qu'elle peut faire ça avec moi et pas avec tous les autres gros chiens du boulot. Je me demande si vous étiez d'accord avec ma femme. Quelqu'un dit, je suis gay et je suis plutôt de l'avis de ta femme. Beaucoup de femmes se mettent à flirter avec moi pour rire, de manière plus ou moins directe et subtile. Ça ne va pas jusqu'aux mains au cul parce que je suis pas du tout tactile, mais on m'a dit de ces trucs après avoir appris que j'étais gay. Je suppose que le fait d'être sûr que je ne vais pas prendre ça au sérieux et devenir un gros lourd leur permet de faire des blagues qu'elles ne feraient pas à un hétéro de peur que ça tourne mal. Donc si ton collègue a confiance en toi et sait que tu prendras ça en te marrant, ça explique sûrement. Je pense qu'on est quand même dans une saucisse genrée, là. Hein. Je pense que je n'encouragerais pas les femmes hétéros à flirter de façon intense avec les hommes gays juste parce qu'il n'y a pas de risque. Tout comme j'encouragerais pas les hommes hétéros à flirter de façon intense avec les femmes lesbiennes parce qu'il n'y a pas de risque. Vous voyez, dans ce sens-là, ça marche pas. Et alors, ça marche pas parce qu'on vit dans le patriarcat, donc je sais que l'argument de « si on inverse les genres, c'est bizarre », mais je suis là, peut-être, genre, laisser les gens tranquilles, quoi. Enfin, What? What? Donc après voilà, la personne dit qu'il prend ça comme de la complicité et en vrai, alors je sais que dans le chat je vous vois hein, dire mais il y a pénétration donc c'est un viol machin. Oui, techniquement c'est à minima une agression sexuelle légalement. Mais imaginez par exemple les gens qui, ok, des fois j'aime bien me prendre des baffes au lit. Vous le savez, c'est pas une nouvelle, tombez pas de votre chaise. Dans un autre contexte, et si je ne consentais pas à ces baffes, ce serait une agression. Et une agression à caractère sexuel, en plus. Comme je consens, voire que je demande, c'est pas une agression et je le vis pas comme tel. Et en fait, vous pouvez me sortir tous les trucs factuels qui disent « Bah, je suis désolée, mais il y a eu contact entre une main projetée à telle vélocité et ton visage, c'est donc une violence physique, c'est donc une agression. » Je te dirais « Oui, mais pas là, parce que j'étais d'accord. » Et je pense qu'on est un peu pareil, genre, le gars est d'accord. Donc c'est pas un kink, c'est pas sexuel, mais il est là, je suis d'accord, je le vis pas comme une agression et j'ai consenti à se toucher, tout comme il y a des gens qui s'insultent entre potes, qui sont là « Ah, grosse connasse !» et tout. Moi, non merci, ne me faites pas ça, mais ils le vivent pas du tout comme une insulte, du coup. Donc, je sais que les mots sont importants et les actes sont importants, mais j'entends que là, la personne nous a dit clairement « Je ne le vis absolument pas comme une agression, je le vis comme une complicité, quoi. » Ok. Ouais, enfin, la figue. Je sais, Crochetade, c'est bizarre, le truc de la figue, mais bon. Fabi nous dit, j'ai entendu une anecdote dans un podcast l'autre jour, une meuf racontait qu'en famille, ils se mettent des olives et un jour, elle était en short et montait les escaliers et sa mère a mal visé et a fini avec le doigt dans son vagin. J'ai envie de crever. Je me suis appuyée à mon mur extrêmement fort. Faites un effort, les gens. C'est très dur là, émotionnellement, ce qui se passe. Après, je suis d'accord avec vous de pas sur le lieu de travail. Si vous êtes pote, faites ça en dehors. Ne normalisez pas sur un lieu de travail le fait de se prendre des doigts dans le cul. Sauf si c'est un lieu de travail de proctologue où du coup ça peut vous arriver. Ou en tout cas arriver à des gens qui passent dans le cabinet. Je suis d'accord avec ça parce que qu'est-ce qui fait que les gens, ils vont les nouveaux... Oh, merci beaucoup Picodon pour le resub. Merci. Que les nouveaux arrivants, ils vont comprendre que t'as le droit de dire non et que c'est pas normal et que t'as le droit de pas aimer ça si c'est traité comme normal et que la meuf 10 fois par jour... elle fout un doigt dans le cul du mec au point où quand même ça l'interroge assez pour faire un post Reddit. Donc oui, ça le fait rire et oui, il vit pas ça comme une agression, mais ça arrive quand même tellement souvent que ça l'interroge. Et alors, quelqu'un lui dit, est-ce que t'as pensé au fait qu'elle veuille juste pécho? Et il dit, absolument pas possible, je garde carrément ses enfants le week-end, etc. Et honnêtement, je suis vraiment pas un canon, je me lève chaque jour en regardant ma femme et en me demandant ce qu'elle fout avec moi, alors que ma collègue, c'est l'une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Bah, ça n'a rien à voir. Il dit, d'un point de vue physique, je suis pas ouf, mais j'essaye de me soigner, j'ai une chance extraordinaire d'avoir une chérie dans ma vie. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de flirt entre eux. Et en fait, j'entends, enfin, l'olive, c'est pas un truc très sensuel, quoi. Une femme qui drague un homme, elle va pas forcément se dire, tiens, je vais lui mettre un bon petit doigt dans le cul, ça va lui faire plaisir. Ça peut être effectivement un humour un peu beauf, hein, on va pas se mentir, comme le chabit, etc. Ou le chachat, il y a des meufs qui font ça, il hein, y a des meufs qui se touchent la chatte entre meufs, je suis là... Sans moi, c'est le moment où je prends la navette et je quitte la station spatiale internationale. Mais il y en a. Et en fait, si tout le monde est OK, OK. Mais du coup, au travail, non. Voilà, mon verdict serait à la limite, si vous voulez. Mais wesh, peut-être vous mettez pas des doigts dans le cul dans la photocopieuse, quoi. Il y a d'autres gens ici, merde. Ou alors, ils travaillent vraiment que tous les deux, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Bien, merci pour ce thread, Olive, qui nous a ravis. On va arrêter de silencier les hommes, là. On a fait deux Ask Meuf d'affilée. On va aller voir... Ah. Pourquoi les dick pics ? Est-ce qu'on n'a pas déjà eu cette conversation Twitch ? Est-ce qu'on n'a pas déjà eu ce débat de pourquoi les hommes envoient des dick pics ? À chaque fois, il n'y a que des mecs qui répondent pour dire « Moi, je ne fais jamais ça, donc je ne sais pas pourquoi les hommes envoient des dick pics. » Impossible de savoir, je ne fais jamais ça en fait. Je suis la goutte, du coup, c'est pas vraiment une réponse à la question. I don't know. Ou le classico, les hommes envoient des dick pics parce qu'ils espèrent recevoir des chattes en échange. Et je suis là, il y a un moment où on leur a quand même pas mal dit qu'une dick pic non sollicitée, c'est non. Donc pourquoi ils font ça ? Donc si vous voulez, on peut aller lire le thread, mais à mon avis, ça va être ça les réponses. Ça va être, je sais pas, moi je fais jamais ça en fait. Et on pourra aller lire un article de Mademoiselle où des hommes en parlaient avec un peu plus, peut-être, d'honnêteté, quoi. Attendez, mais il y a pénétration avec l'olive, parce que moi, avec mes meilleurs potes, s'il y en avait une de fête, je le regarde bizarre quand même. Orbat, bah, en gros, si j'ai bien compris l'olive, hein, parce que je suis pas dans ce... Salut Chino. Je suis pas dans ce lore, mais oui, il y a en tout cas un truc d'enfoncer à travers les vêtements. Donc, il y a peut-être pas pénétration directe du doigt, hein, sauf si tu craques les vêtements parce que t'as le doigt de Wolverine. Mais oui, c'est pas une caresse sur les fesses ou une tape sur les fesses. Il y a une idée de t'enfonces ton doigt au niveau de l'anus, quoi. Bon. En tant que les dick pics, j'entends beaucoup, mais beaucoup trop parler de femmes qui reçoivent des photos d'entrejambes masculins sans raison valable. Et c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais je me demandais pourquoi. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre cet état d'esprit, la réflexion derrière, et je poste donc dans l'espoir de mieux comprendre ces comportements quasi animaux. Je me doute que ceux qui font ça ne verront probablement pas ce poste. Bien sûr, c'est comme les harceleurs de rue, ils n'existent pas. Hein. Personne n'en connaît. Mais j'espère quand même que vous saurez me donner quelques pistes. Merci d'avance. Oh, des gyoza, Chino, j'ai envie de gyoza. Alors, la top réponse, c'est « La question avait été posée il y a un moment et quelqu'un avait répondu quelque chose de plausible. C'était quelque chose dans le genre de « Moi, homme, et mes photos, partie intime, femme. Donc, toi, femme, et mes photos, partie intime, homme. » Donc, le fameux truc de « Nous, ça nous dérangerait pas de recevoir une photo de chat, donc on pense pas que ça vous dérange de recevoir une photo de bite. » Au bout d'un moment, ça ne marche pas quand 100% des femmes ont dit « Non, merci. Vraiment, non, merci. Demandez-nous quand même avant. » Et quelqu'un sur Reddit répond non, celui qui avait répondu quelque chose de plausible, c'est en gros il y a des femmes qui aiment et qui répondent positivement mais elles sont très rares, donc j'envoie à 100 filles pour avoir une réponse positive et les autres je m'en fous. Pour lui ce n'est pas haha j'impose ma queue aux femmes qui n'en veulent pas, ça m'excite, c'est les 99 autres sont un dommage collatéral dont il n'a rien à foutre tant qu'il y en a une qui répond positivement et qui lui montre sa mounette en cam. Alors mounette c'est non, mais ça demande quand même d'envoyer sa teub à 100 meufs sans peur, sans honte et sans reproche, donc let's go. Mais en effet on a cette idée de ce qui excite les mecs qui envoient des dick pics, c'est la réaction de rejet que la femme peut avoir. Alors ça peut arriver, il y a des hommes dont c'est le kink, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut être voilà, ce truc de pêcher à la dynamite, en gros, de tu satures le marché, et comme ça, s'il y en a une ou deux qui sont pas choqués et qui sont là, ok, tu sais quoi, on va se branler ensemble, et bah tu tombes dessus. Donc, et c'est ce que j'avais lu, donc j'avais. Ça ne s'arrête plus, mais j'avais fait un article. Homme envoie dick pic mademoiselle, qui était basé sur un thread Reddit américain, donc on va aller sur le thread Reddit. Hop. Ah oui, non, c'était, pardon, une journaliste qui avait interrogé des hommes qui lui envoyaient des dick pics non sollicités, parce que c'était une journaliste sexo. Et je l'ai appris en travaillant dans un magazine féminin, les journalistes sexo sont extrêmement surexposés aux dick pics et aux messages à caractère sexuel non sollicités, puisque les mecs pensent que comme c'est leur travail, vraiment, il n'y a pas de souci. Et du coup, ce que la personne, la journaliste disait, c'est que ce que les hommes lui ont dit, c'est... sur 5 personnes à qui j'ai envoyé, 2 ont apprécié. Donc c'est quand même pas mal de réussite. Et donc, la journaliste dit, est-ce que tu... Donc elle parle à un gars qui lui a envoyé une dick pic. Est-ce que tu dirais que tu cherches à jouer un peu en ligne ou plutôt une relation sexuelle suivie ? N'importe, idéalement une relation sexuelle suivie. Quand tu m'as envoyé la photo, est-ce que ça t'a excité ? Un peu, oui. Tu ne t'es pas inquiété du fait que je pourrais ne pas avoir envie de voir ton pénis ? Si, c'est pour ça que je ne le fais pas souvent. Alors pourquoi tu l'as fait avec moi ? J'ai vu ton article sur Vice et je me suis dit qu'on pourrait discuter, peut-être se choper de temps en temps. Pour être honnête avec toi, ça me blesse de recevoir des dick pics. Je n'ai rien contre les plans cul, mais j'aimerais au moins pouvoir échanger un peu d'abord. Ça me donne l'impression de ne pas être vue comme une personne. Je comprends, c'est juste que je me suis dit que tu devais recevoir beaucoup de messages, alors je voulais être sûre de capter ton attention, même si c'était de mauvais goût. De mauvais goût. Donc une heure d'échange a suivi, et le mec a quand même essayé de la pécho. Hein. Il lui a quand même demandé s'il y avait moyen de moyenner, donc l'audace. Mais du coup, oui, il y a cette idée de pas forcément de « Haha, ça m'excite de te faire du mal, toi, femme, et de t'imposer mon gros gourdin », mais il y a ce truc de « Je m'en fous, j'envoie ma bite, on verra. » Mais en effet, il n'y a pas de réflexion de comment la personne va le prendre. Ils s'en battent la race. Ils ne se mettent pas à la place d'une meuf. Ils ne se disent pas que la meuf va peut-être mal le prendre, mal le vivre, que ça peut, c'est que c'est une agression d'exhiber sa teub à quelqu'un qui n'a rien demandé, surtout qu'elle est souvent en érection, et de la mettre dans une position sexuelle. C'est pas parce qu'on est sur une appli de rencontre, sur Internet, en tant que femme, journaliste sexo, etc., qu'on a envie ou qu'on mérite de recevoir des teubs. Voilà. Non. Voilà. Quelqu'un dit « je ne comprends pas non plus », envoyer des photos de son visage ou de soi torse nu, je vois l'idée, mais les photos d'asperges, ça dépasse ma compréhension. Et quelqu'un dit « bah dans une discussion sexto, ça passe, genre les deux s'envoient des messages qui font monter la sauce et de temps en temps t'envoient des photos pour confirmer ou pallier l'imaginaire. En revanche, sans la discussion qui va avec, c'est l'équivalent d'un paon qui montre ses plumes, une parade nuptiale non civilisée. Mais au moins, un paon qui fait la roue, c'est joli. » Alors moi, je suis dans la team, les tubs, c'est joli, c'est juste que les mecs savent pas trop les prendre en photo. L'angle est pas bon. Souvent, l'éclairage est moche et tout, mais les... c'est très joli une tub. Voilà, quand c'est bien, quand c'est joliment regardé. Et quelqu'un dit sur Reddit, j'ai déjà posé la question et pour 99 femmes dégoûtées, il y en a toujours une pour apprécier, du coup c'est dégénéré continu. Je pense aussi que certains doivent aimer le côté exhibitionniste, se faire insulter ou dégoûter les autres. Voilà, ça peut être des kinks. Et une femme dit, effectivement, d'expérience et des expériences de mes amis, énormément de mecs qui envoient des DM douteux ou des dick pics, si ce n'est pas la totalité, adorent voir nos réactions dégoûtées, aiment se faire insulter. Certains demandent à ce qu'on se moque d'eux. Ouais, et il y a un subreddit dédié aux meilleures réponses envoyées à ce genre d'individu. On va pas y aller parce que j'ai pas envie de me faire bannir de Twitch. Et Maizaki dit, pour moi c'est pareil pour les compliments dans la rue ou les sollicitations du même genre, les hommes ne se posent pas la question de comment leur intervention va être prise. Ben oui, c'est ça, c'est que en fait ok, vous avez envie, mais votre envie n'est pas vraiment si intéressante que ça, vous pouvez aussi la garder pour vous. Voilà, l'envie n'est pas une raison sine qua non de faire quelque chose, quoi. Excargo nous dit « J'ai déjà essayé de discuter avec un random gars qui m'a envoyé une dick pic sur un site obscur. Je lui ai demandé si ça avait déjà marché, pourquoi il faisait ça, etc. Après plusieurs messages, il m'a fait comprendre qu'il avait très peu confiance en lui et qu'il préférait envoyer sa teub en mode « je tente le tout pour le tout ». Il a quand même essayé de me choper après. » Exactement l'expérience de la meuf journaliste sexo. Il a quand même essayé, quoi. J'avais lu une explication d'un scientifique qui expliquait pourquoi plein d'hommes hétéros aiment autant regarder des teubs, etc. Bon. À voir, moi je connais pas beaucoup d'hommes hétéros qui aiment regarder des tubs, et dans le porno pour hommes hétéros, donc le porno mainstream, on voit pas beaucoup la tub. Hein. Elle est plutôt dans Madame. Ok, bon, on va finir sur un petit tour sur Reddit France quand même. Pourquoi tant de haine? Et le post commence par « Je suis un homme, je me considère féministe ». On est ravis. Donc le post Reddit. « Je suis un homme, je me considère féministe. J'ai grandi avec des valeurs qui vont dans ce sens, au point que je pensais encore, il y a pas si longtemps, que c'était relativement la même chose pour tout le monde. Et forcément, à force, les algorithmes connaissent bien. Et je suis confrontée à deux types de choses négatives. Les shorts YouTube ou reels sur Insta créés par des femmes, quel que soit le contexte, que ce soit une recette, des opinions sur la société, du sport, whatever, il y aura toujours des gens pour venir foutre la merde en commentaire uniquement parce qu'ils ont vu une femme. Mais qui sont ces mecs? Pourquoi tant de haine envers le sexe opposé ?» Donc ça, c'est la première chose. Et... les shorts YouTube ou reels en noir et blanc avec les sous-titres jaunes. Au début, c'était uniquement des trucs débiles, genre objectif milliardaire, mais maintenant, j'en vois qui glorifient des trucs genre Trump, Andrew Tate, voire Hitler, true story, quand ils balancent des phrases absolument horribles, et très souvent, ça concerne les femmes. Donc pourquoi? Pourquoi quand Jean-Adrien, qui a quand même eu un peu d'éducation et qui a au moins une expérience sur Terre de 25 ans, pourquoi quand il voit une meuf se plaindre d'attouchement dans le métro, il dégaine en moins de 3 secondes son commentaire haineux? Bref, voilà, c'était majoritairement de la rage. Je sais, ça peut être une majorité qui ne s'exprime pas IRL et qui se permet de faire du bruit en commentaire, mais JPP de ces gens. Merci d'avoir lu ce petit pavé. Alors, ça va, c'est moins pire que ce qu'on aurait pu craindre. Et c'est intéressant, non, comme sujet. Pourquoi tant de haine? Est-ce que peut-être Jean-Adrien a juste trop traîné sur le 18-25? C'est possible. La vérité, c'est qu'avant, quand t'étais puceau à 25 ans, t'étais seul chez papa-maman et tu fermais ta gueule. Maintenant, avec Internet, il s'exprime sans conséquence. Et plutôt que de se regarder en face et de se dire « faut que je change, c'est pas comme ça que je trouverai une femme », c'est plus facile de laisser une haine de la gente féminine naître à base de « si je suis gentille, je mérite de baiser, c'est toutes des putes, elles aiment pas les mecs gentils ». Et certains l'ont commercialement bien compris et entretiennent ça. Très bien. J'allais y venir. Je trouve que dire « c'est juste des mecs paumés », c'est un peu mettre de côté le fait qu'il y a des gens qui targetent très frontalement ces mecs paumés, des gens comme Andrew Tate, etc., ou en France, le 18-25, Soral et autres joyeusetés, qui les targetent pour leur vendre une solution toute simple à leur problème, qui est la haine de l'autre et monter les communautés les unes contre les autres, que ça soit en leur targetant des trucs racistes si c'est des jeunes mecs blancs, ou des trucs misogynes si c'est juste des jeunes mecs. Et cette idée que... en fait, c'est plus simple de résumer le monde entier à un problème d'opposition homme-femme que de comprendre la complexité du monde. Et tout comme il y a des gens de tout type et de tout genre qui vont parfois essayer de trouver une solution simple à un problème compliqué, parfois la solution simple, c'est la misogynie. Mais elle ne vient pas de nulle part, elle n'est pas innée, elle est entretenue, elle est créée, elle est alimentée, et on a tous et toutes une responsabilité dans la fin du patriarcat. Et ça passe aussi par comment on agit en ligne, qu'est-ce qu'on met en avant, comment on réagit à des choses, comment on s'exprime, en ligne comme dans la vie, bien sûr, physiquée, mais en ligne, on a une portée beaucoup plus grande, quoi. Cadlo demande dans le chat, est-ce que pour les mecs du chat, l'algo YouTube a tendance à vous montrer des contenus masculins ? Mon copain et certains de mes potes ont ce genre de contenu qui pop de temps en temps. Ils les signalent à chaque fois, mais c'est relou pour eux de devoir faire le ménage. Ah bah la pipeline de tu regardes une vidéo sur un flingue parce que t'as un peu joué à Call of et tu voulais en savoir plus, tout YouTube te recommande Andrew Tate, elle est courte. Elle est courte, courte, courte. Il y a beaucoup de témoignages qui vont en ce sens. Donc oui, il y a ça aussi, quoi. Birdseye nous dit « Antoine Goya s'était foutu de la gueule des droitards en disant que c'était les meilleurs servants du capitalisme, n'importe quelle formation misogyne à 600 balles, ils se jettent dessus. » Ouais, après, si on part comme ça, les gauchos, ils achètent des formations aux pierres et aux énergies, donc bon. Sorry, hein. Ah, Crushtet dit « Je regarde beaucoup de stand-up et ce con de YouTube va me proposer du dieudonné. » Malaise. Sur YouTube Shorts, j'en ai plus. J'ai plus de shorts qui m'expliquent comment avoir des femmes, des Lamborghini. Les deux besoins primaires d'un homme, les femmes et les Lamborghini, ainsi que la viande rouge. Bonjour Drazek. Sinon ça va, YouTube a bien compris que j'étais un islamo-wokiste. Ouf. Ouf. Ah, et alors sur Reddit, quelqu'un dit, surtout avant, ils s'entretenaient pas entre eux. Maintenant, tu peux être un connard haineux et avoir l'approbation d'autres connards haineux en sortant des trucs encore plus trash chaque jour que la veille ou en continuant d'agir comme un connard. C'est vrai qu'avant, t'avais peut-être deux cons dans ton bled qui étaient cons comme toi et vous étiez les trois cons. Là, tu peux trouver 100 cons qui sont répartis à travers la France et du coup, tu te dis, bah on a raison, on est plein. Sauf que c'est juste des cons qui traînent ensemble, mais avant, ils auraient pas traîné ensemble parce qu'ils seraient pas connus, quoi. Voilà, le top commentaire, c'est maintenant les mecs paumés, on les entend. Avant, ils étaient planqués chez leur daronne, quoi. Alors, effectivement, je ne suis pas pour utiliser puceau comme une insulte. C'est la personne sur Reddit qui l'a fait. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais je le fais parce que je vois un commentaire qui le note. Un autre commentaire d'une potentiellement une femme, puisque Mimi Cracra, c'est son hâte, nous dit « Je suis d'accord avec ce qu'il a été dit, mais je pense qu'il faut rajouter une dimension, la situation de la société. La société va mal et beaucoup perçoivent l'avenir comme sombre. Réchauffement climatique, concentration des richesses, etc. Dans ce climat, on observe de plus en plus de personnes se raccrocher au traditionnel en l'idéalisant un maximum. On voit ressurgir des « avant, la femme ne travaillait pas, il y avait du travail pour tout le monde et les enfants étaient mieux éduqués. » Sans oublier le fait que l'extrême droite résonne dans tous les discours et médias. Mon ressenti est que je comprends énormément la phrase de Simone de Beauvoir « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Ceci dit, c'est valable pour toutes les minorités en ce moment, il faut bien trouver un coupable quelque part. Yes, on en revient à « c'est une solution simple, un problème compliqué, le monde est complexe et il fait peur » et se trouver un ennemi simple et une solution simple qui est « faut revenir au patriarcat des années 50 », c'est moins dur que de réfléchir à l'état du monde. Mais il est intéressant ce poste. Écoutez, on était en mode « oulala, le poste il commence par « je suis un homme féministe » et tout », eh bien ça a l'air d'être un homme féministe et c'est des opinions intéressantes. Donc, it's good. Ok, merci d'avoir été là. Des gros bisous. Et oh, il y a Birdseye qui dit « c'est à peu près le seul espace où je me sens écoutée et à l'aise pour évoquer ma sexualité. J'apprécie ça, merci. » Merci à toi, ça me touche beaucoup. On est là pour être à l'aise. Des gros bisous et restez au frais. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.